Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
20h30, 22h. Malik Eudy. Au bout du foot, 30 secondes chrono. Au bout du foot, quel choix pour quel résultat? Retrouvez chaque lundi Malik Eudy et toute la team d'Au bout du foot entre 20h30 et 22h sur mon Paris FM.
Bien le bonsoir à toutes, bien le bonsoir à tous. Vous êtes bien sur mon Paris FM, il est pétante à 20h31 à Paris, Paris 13e arrondissement, d'où nous émettons. Très 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 heureux d'être avec vous en ce lundi soir pour parler foot avec nos amis ici présents. Je vais commencer par Eladj, notre chroniqueur foot, mon Paris FM. Salut Eladj.
Salut Malik.
Bien.
Ça va et toi?
T'as passé une bonne semaine, bon week-end surtout?
À travailler, mais ça va, ouais.
Un week-end de sport aussi, j'imagine.
Un week-end de sport aussi.
N'est-ce pas? Stéphane Desenclos, du quotidien du sport.fr. Comment va, mon Stéphane?
Ça va.
Super bien?
Très bien, ouais, parfait.
Bon. Bien, alors. Et puis notre rédacteur en chef, hein, Aboubakar.
Salut Malik, ça va?
Ça va très, très, très bien. Notre étudiant, Ibrahima, comment ça va?
Salut, ça va?
À noter également que notre ami Chakenza va pas tarder à nous rejoindre, ainsi que Philippe Carnu, il vient de finir justement mon pari sport et il se désaltère un tout petit peu. Il revient dans quelques instants. Les amis, je vous demandais quels ont été les faits majeurs de votre week-end comme ça. On n'est pas encore dans le 30 secondes chrono, hein, je vous rassure. Stéphane, t'as fait quoi? T'as fait quoi ce week-end?
Le week-end, bah, je fais que regarder des matchs. J'ai essayé de faire ce qu'a expliqué Eladj, mais j'ai pas tout réussi avec le téléphone et tout.
Eladj, il a dit qu'il avait 5 écrans.
Ouais, ouais, j'ai un peu de mal. Mais blague à part, j'ai quand même regardé pas mal de matchs.
J'ai dit 3.
Ouais, non, beaucoup en tout cas. J'ai quand même regardé beaucoup de foot. Après, des choses personnelles qui n'intéresseront pas les.
Mais ça, tu sais pas, hein. Quoique. Tu sais pas, Ibrahima, et toi?
Oh, ça va, j'ai passé un bon week-end. Ouais. Dimanche, j'ai assisté au match entre Paris Basket et Metz 92. C'était un bon match de basket. C'était la première fois que j'en voyais en direct, donc ça m'a fait plaisir et j'espère que je revivrai l'expérience.
Aboubakar.
Ouais, ça va aussi.
Week-end sport, quoi, loisirs, t'as fait quoi?
Sport principalement, travail. Ah oui, travail. travail des dernières minutes, travail imprévu, mais travail et sport. J'ai regardé l'OM, j'ai regardé pareil qu'Ibrahima, Paris Basket. Et non, sport et travail. Un week-end plaisant.
Donc vous avez fait comme Eladj en fait, hein, sport et puis beaucoup de travail. On va rentrer tout de suite, tout droit, dans le sommaire d'Au bout du foot.
C'est parti. Au sommaire ce soir d'Au bout du foot, 30 secondes chrono. Nos experts résument un fait marquant de l'actualité au foot en 30 secondes chrono. Coupes européennes. Au bout du foot, analyse les performances des clubs français lors de la semaine européenne. Quels matchs ont déçu? Quels matchs ont impressionné? Monaco en tête de la Ligue 1, les hommes du Rocher, peuvent-ils rêver du titre? A contrario de Monaco, le FC Lorient risque-t-il la descente? Real Madrid, Jude Bellingham en course pour le titre de Pichichi en Liga. Réalité ou utopie, nous y reviendrons. Équipe de France, Didier Deschamps dévoile sa liste. Qui sont les absents notables? La méforme de Mbappé est-elle préoccupante? Au bout du foot se prononce. Championnat de MLS, Lionel Messi nominé parmi les joueurs de la saison en MLS. Justifié ou pas? Au bout du foot ouvre le débat. La chronique, quel choix pour quel résultat? À 3 mois de la CAN, le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, est-il prêt? Quels sont les favoris pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations? Depuis Abidjan, notre correspondant sur place nous dit tout. Commentaires, analyses, décryptage, pronostics. Au bout du foot, saison 1, épisode 4. Bienvenue.
Bienvenue en effet dans Au bout du foot. Alors les amis, le sommaire vous l'avez entendu, on va ouvrir avec le 30 secondes chrono. En 30 secondes, vous nous donnez votre fait marquant de l'actualité footballistique du moment. On va commencer avec la permission de notre réalisateur Jason Lindor. Top chrono, c'est parti.
Au bout du foot, 30 secondes chrono.
Le sujet que je voulais aborder durant ces 30 secondes chrono, c'est Chelsea, qui revient plutôt bien en ces derniers temps en championnat et en League Cup. Ils avaient eu beaucoup de mal la saison passée en ce début de saison. Ils reviennent avec 3 victoires d'affilée, notamment avec un but de Mudryk, la recrue ukrainienne qui avait été beaucoup critiquée et qui a inscrit son premier but. Et on sent une amélioration dans le jeu, on sent qu'ils sont plus à l'aise et on sent que les recrues qui sont arrivées cet été, le mercato passé, commencent de mieux en mieux s'intégrer et l'équipe est de plus en plus cohérente.
Merci, avant le temps imparti, bravo. Qui c'est qui souhaite réagir rapidement sur Chelsea? Non, c'est bon. Bon allez, on va repartir pour le 30 secondes chrono de Monsieur Aboubakar, c'est parti.
30 secondes chrono, c'est pour Amine Harit hein, qui est revenu des croisés il n'y a pas très longtemps, qui a fait un formidable match contre le Havre, qui avait déjà fait un formidable match contre Brighton, et ça fait plaisir de voir un joueur revenir à son niveau d'avant blessure, et ça fait plaisir surtout de voir qu'une carrière elle s'arrête pas après une aussi grosse blessure. Donc très content pour Amine Harit qui a mis sa 5e passe décisive ce week-end, soit 3 passes décisives de plus qu'Ousmane Dembélé, et je suis très très content pour Amine Harit et on lui souhaite le meilleur pour la suite.
Ah, j'aime bien la pique là. C'est Ousmane Dembélé. Qui c'est qui souhaite réagir rapidement, les amis? Amine Harit, retour. On se souvient qu'avant le mondial, il avait une grave blessure qui l'avait éloigné longtemps des stades. Là, il est en train de revenir progressivement.
Bravo.
Eladj, rapidement, une réaction sur Amine Harit.
Tu m'as dit
Harit.
Amine, c'est qui?
Harit.
Il joue
à Marseille.
Après, la connaissance foot, c'est pas pour tout le monde, vous savez. Il a trop travaillé ce week-end. Il a trop travaillé ce week-end. On lui en veut pas.
Excusez-moi. Non, excusez-moi, je savais pas.
Amine Harit, c'est pas un top joueur, mais c'est un bon joueur quand même.
Et moi, tout naïvement, on salue la présence de notre ami Cheikh Nza qui vient de nous rejoindre. Et moi, tout naïvement, je lui dis, tu connais pas. Bien joué, bien joué. Là, t'as su, t'as réussi ton coup. 30 secondes chrono pour Monsieur Desenclos. C'est parti.
Oui, alors moi, c'est incontestablement le fait marquant de Montpellier-Clermont avec ce pétard à la fin, même si c'est peut-être un acte un petit peu différent des autres. Pour moi, c'est le symbole de la place que prennent les supporters aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Il y a 2 ans, c'était Saint-Etienne. L'année dernière, c'était le fameux Bordeaux-Rodez. J'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Marseille-Nice, Nice-Marseille, Lyon-Marseille. C'est incontrôlable. Donc, c'est hallucinant, quoi.
Pile poil, réaction.
Bah, à vrai dire, moi j'ai hésité entre ça et Amine Harit et je suis totalement d'accord avec tout ce qu'il a dit, monsieur le rédacteur en chef du quotidien du sport. Ce qui s'est passé, c'est honteux, c'est terrible, mais moi j'en veux aussi aux joueurs montpellierains, aux joueurs clermontois, je crois, qui a fait un doigt d'honneur. Pareil, en fait, je pense que tout ça, il y a un grand bordel entre les supporters, les joueurs, et je pense que c'est, on le disait la semaine dernière, que les sanctions en France, elles n'étaient pas assez fortes, et ça en est la preuve le week-end d'après avec ce qui s'est passé. Faut taper beaucoup plus fort du poing sur la table.
Réaction? Non, c'est bon. Cheikh Nza, ton oui. 30 secondes chrono arrive, c'est parti.
Moi vraiment mon coup de cœur c'est le Real Madrid avec Bellingham qui c'est pas vraiment qui mâche l'eau tout lui réussit en ce moment. Je pense que présentement là même il est même pitiqui, donc à combien de matchs et tu vois il a fait une première partie de saison vraiment incroyable et j'espère vraiment qu'il pourra continuer sur cette lancée et pourquoi pas donner un 15e titre au Real Madrid en Ligue des Champions.
On y reviendra d'ailleurs en long, en large, en travers sur le phénomène Jude Bellingham dans quelques instants. Dernière ponctuation de ce 30 secondes chrono avec Eladj. C'est parti.
Bah moi, je voulais aussi féliciter Bellingham mais je vais pas trop m'attarder dessus, on va en reparler plus tard. Mais il y a un autre fait marquant moi qui m'a déplu, c'est Luis Enrique qui fait une compo de merde, vraiment vraiment de merde contre Newcastle. Et j'avais prévenu, hein, ça faisait un moment que je disais que la seule équipe qui me faisait peur dans le groupe c'était Newcastle. On m'a pas pris au sérieux, on me riait au nez. Et là on a bien vu la différence de football.
Merci. Justement, tu parlais du PSG. Je pense qu'on y voit tout droit parce qu'on va parler des Coupes européennes à l'instant même. Chers amis, les Coupes européennes, 2e journée, donc se sont déroulées il y a déjà quelques jours. Alors, quels sont les matchs qui vous ont impressionné et quels sont les matchs qui vous ont déçu? Qui c'est qui souhaite prendre la parole, Stéphane?
Bah moi, bien, je vais dire, je suis comme tout le monde, hein, le match qui m'a impressionné et qui a impressionné, je pense, quasiment la France sur l'Europe, certainement, c'est Lens-Arsenal. C'est hallucinant. Je pense qu'il n'y avait pas... il y avait très, très, très peu de gens qui voyaient... Lens arrivé à battre Arsenal, puis le match qui a été hyper décevant, c'est le match pour moi c'est la même chose quoi. C'est autant surprenant de voir Paris perdre 4-1 ou même 3-1 quoi, jouer comme ça en tout cas par devant Newcastle, que de voir Lens gagner contre Arsenal.
Mais est-ce que véritablement Stéphane, tu es surpris de voir Paris perdre de cette façon?
Ah oui, très surpris.
Mais moi, je vais te dire surpris. Franchement, je ne suis pas surpris.
Non, mais je sais, pas, vous n'êtes pas surpris.
Non, mais je vais te dire pourquoi.
Dire qu'il avait annoncé.
Je vais te dire pourquoi.
Donc, il n'est pas surpris, mais moi, je suis surpris. Oui.
Je trouve que cette équipe n'est pas forte. Véritablement, hein, je te le dis. Après,
peut progresser. Aujourd'hui, Newcastle font partie du top 4 de Première Ligue.
9 octobre.
Ils ont fini 3e.
9 octobre.
C'est une réalité.
Le PSG n'est pas une équipe concurrente. Moi, je vous le dis, en cash.
Vous pouvez enregistrer. Je continue. On avait donné nos pronostics à la première émission. Je confirme ces pronostics. Quoi. Milan AC et Paris vont passer. Newcastle ne passera pas.
Bon, on va sur ça. D'accord.
C'est mon avis. C'est mon avis.
Oui, bien sûr, t'as le droit d'avoir un avis. Hein.
Moi, je suis pas du même avis que Stéphane. Je suis pas du même avis que Stéphane Desenclos quand il dit vraiment que le Milan et Newcastle vont passer et que le Milan et Newcastle, c'est ça, non?
Non, j'ai dit que PSG, Paris et Milan vont passer Newcastle.
Pourtant, moi, je vois que le maillon, vraiment, le grand maillon de cette poule, c'est-à-dire l'équipe la plus dangereuse, c'est Newcastle. Parce qu'à ce moment, le Milan, ils ne sont pas en grande forme. Parce que là, moi, j'ai regardé le média du Milan, vraiment. Là, ils ont gagné le match, c'est un coup de chance. Après, vraiment, on n'a pas un Milan intincelant. On n'a pas un Milan intincelant, vraiment, sur toute la ligne, que ce soit défensivement comme offensivement. Là, le Milan, il peine vraiment à retrouver les repères. Donc quand tu me parles de Newcastle, pourtant Newcastle là c'est une équipe vraiment qui est en confiance déjà, tout lui réussit, même si ils ont eu un début de saison un peu mitigé que l'année dernière, mais là Newcastle vraiment c'est la grande équipe de l'équipe.
Bah moi ça va être très simple. Hein. Moi j'avais prévenu sur mon Paris Sport, dès les tirages au sort des poules, des phases de poules, j'ai dit la seule équipe qui me fait peur, Dortmund, j'ai dit aller-retour normalement on les bat. AC Milan, aller-retour, ils ne me font pas peur. Au pire des cas, on fait un match nul à San Siro si Luis Enrique veut essayer des nouvelles choses. C'est tout. Mais Newcastle, c'est la seule équipe où j'ai mis un point là-dessus. Et on les a vus, ils jouent au football. Et c'est ce que je prévenais, hein, même la semaine dernière, je disais, attention, là, ils ont battu City. Juste après City, ils ont mis 8-0 à Sheffield. Et là, ils en mettent 4-1, ils mettent 4-1 au PSG. Je disais juste, attention, je le disais, hein, depuis le début. Et franchement, on a vu dans le jeu, dans l'intensité qu'ils ont mis, dans le football tout simplement qu'ils ont proposé, ils étaient au-dessus à tous les niveaux. Il n'y a aucun niveau où il y avait match. À tous les niveaux, ils étaient au-dessus.
Ibrahima, qu'est-ce qui a manqué au PSG?
Ils n'étaient pas très haut alors.
Face à Newcastle, selon toi, qu'est-ce qui a manqué au PSG ce soir-là?
Ce qu'il a manqué au PSG, surtout en milieu de terrain, parce que la composition du coach, c'était quand même assez c'était catastrophique. Enfin, j'ai pas compris comment tu peux aller à l'extérieur. Saint-James Park, on connaît pas, parce que ça fait quand même un moment que Newcastle n'a pas joué la Ligue des Champions, même si on les voit tous les week-ends en Première Ligue. Aller avec deux milieux de terrain, mettre quatre attaquants, j'ai pas compris pourquoi faire ça. C'était se mettre en danger, c'était un peu se tirer une balle dans le pied. C'est ce qu'on a vu durant tout le match. Hein. L'équipe était très, 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 très déséquilibrée. On en avait quatre devant, deux au milieu qui étaient complètement submergés. La défense a pris l'eau. Marquinhos a fait n'importe quoi, comme souvent en Ligue des Champions depuis quelques années. Skriniar s'est complètement troué. C'était franchement très, 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 très limite et très inquiétant même pour la suite de la Ligue des Champions.
C'est inquiétant, mais là je suis désolé, mais en l'espace d'une minute ou 30 secondes, tu as dit tout et son contraire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a le système peut-être de jeu mis en place par Luis Enrique et après, il y a les performances des joueurs, quoi. Il y a les performances des joueurs.
Ouais, mais est-ce que c'est pas le système de...
Effectivement, oui. Donc, Marquinhos a fait n'importe quoi.
Stéphane.
Parce que je suis 100%, attends, je termine. Je suis 100% d'accord avec toi. Non, mais c'est une analyse que je respecte et tout. Marquinhos a fait n'importe quoi parce qu'il y avait Kolo Muani à la place de Vitinha devant. S'il y avait eu Vitinha sur le terrain, à gauche, assez haut,
donc
comme il était.
Donc, tu es d'accord de dire que
non,
la
non, non, non,
mais
non, justement, non, c'est ironique, bah oui. C'est ironique ce que je dis. C'est ironique ce que je dis. Je pense que
pourtant,
le Marquinhos,
pourtant, je pensais que tu avais là que tu avais un minimum de jugeote.
Ouais.
Je me disais, ah, Stéphane,
Marquinhos,
si
il, est, Marquinhos il ne fait certainement pas n'importe quoi à cause de ça, en tout cas. Peut-être parce qu'il n'y a pas quelqu'un de plus proche de lui pour relancer, pas de solution. Je suis d'accord avec vous. Mais en l'occurrence, par exemple, si on regarde le match d'hier, par exemple, contre Rennes, avec Vitinha, la personne n'aurait rien dit s'il avait mis Vitinha.
Mais là, on parle de Rennes, on est
non,
pas
non,
c'est
mais
pas pareil. Rennes-Newcastle, c'est même pas le même.
Je te parle pas
point,
des adversaires, pas... je te parle pas des adversaires. Je te dis simplement la composition d'hier de Luis Enrique. Si jamais il avait mis la même composition pour le départ du match à Newcastle, personne aujourd'hui ne dirait, je pense que le résultat il aurait été le même, et personne ne
pas.
Dirait personne
je
ne
pense
dirait,
pas, et moi, le moi seul, la seule chose que j'aurais non, dit, comme hier, même... comme le match d'hier, ce que j'ai dit, c'est il a mis Gonzalo Ramos, or qu'il doit mettre Kolo Muani en pointe,
là, tu
clairement.
Parles, là tu,
tu
parles,
vois.
De, parles du match face à Rennes. Hein.
Ah, moi je parle du match face à Rennes, oui, pour moi il aurait dû faire la même compo contre Newcastle, juste à la place de Gonzalo Ramos, mettre Kolo Muani, parce que Gonzalo Ramos n'a rien à faire devant Kolo Muani. Clairement, Kolo Muani a fait un vieux match contre Newcastle, il y a beaucoup d'autres joueurs qui ont fait des mauvaises performance comme tu veux,
mais
etc. Il n'y a pas de problème, mais il faut penser à une chose, le système était dégueulasse, ils ont tenté un truc contre Clermont, il a mis la même compo contre Clermont, contre Clermont il y a eu 0-0, contre Clermont il y a eu 0-0, non mais il n'a pas mis la même compo, contre l'OM il a mis Barcola au milieu de terrain et Vitinha avec Ugarte, il n'a pas mis la même compo Stéphane, il n'a pas mis la même compo, c'est ce que je suis en train de t'expliquer, contre Newcastle il a mis 4 attaquants, il a mis sur le terrain Kolo Muani,
il a mis quoi contre l'OM là, tu m'as
contre
dit quoi
Clermont, contre Clermont, il a mis 4 attaquants, il a mis Kolo Muani, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Gonzalo Ramos. Il a mis les 4 sur le terrain contre Clermont. Le match s'est fini en 0-0. Contre Newcastle, il a récidivé. Contre Marseille, c'était pas la même compo.
Ah bon?
Bah oui, bah Stéphane, sérieusement, t'as
non,
pas
mais dis-moi,
le match.
Dis-moi, ouais,
bah, je t'explique.
D'accord.
Barcola, il était milieu de terrain, il a tenté
non.
un nouveau. Si
Barcola était pas sur le terrain au coup d'envoi.
D'accord. Bah,
c'était quoi la composition
je si, peut-être, oui,
non, 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 mais je veux juste que tu regardes.
Non, mais il y a deux secondes, tu m'as parlé de Vitinha, ça a cloché dans ma tête.
Oui, justement, ça m'emmène.
Tu te rappelles que Vitinha, excuse-moi, tu te rappelles que Vitinha n'a pas joué contre l'OM.
Oui, je me
d'accord,
rappelle.
Okay. Non, ce que tu viens de parler, il a mis
Barcola,
justement,
Barcola,
Ugarte. Là, Stéphane, ça m'amène à poser la question à vous. Est-ce que finalement, Luis Enrique, c'est pas le problème futur que le PSG va rencontrer en définitive?
Je pense qu'on n'a même pas besoin d'aller jusque dans le futur. Hein. On peut présentement, c'est le problème du PSG, parce qu'en fait, le problème de Ugarte, c'est que
il était titulaire.
Oui, Barcola était bien
titulaire.
Bien
sûr qu'il
était titulaire.
Barcola était titulaire.
Oui, Barcola a démarré le match et il est sorti en cours de match, mais il a démarré.
Bien sûr qu'il a démarré.
Ça revient au même, mais qui
à la mi-temps, il y avait combien?
Je te laisse terminer.
Qui a remplacé?
À la mi-temps, il y avait déjà 2-0.
C'est Ramos.
On laisse à bout, on laisse à bout. 2-0
à la fin. Vraiment, concernant Gonzalo Ramos, hier, il a fait un bon match dans l'ensemble.
Comment?
Il a fait un bon match.
Mais c'est quoi un bon match pour toi? Hier, il avait des phases de jeu face au gardien, il a tout loupé. Il est sorti, Kolo Muani est rentré. Première touchée de balle. Excuse-moi, Malik. Première touchée de balle, but. Deuxième touchée de balle, but. Kolo Muani hier, hein, qui a été refusé par
un joueur.
Je t'explique seulement. Gonzalo Ramos, faut que tu m'expliques c'est quoi un bon match pour toi. Faut juste que tu me donnes cette définition.
Gonzalo Ramos, il a été utile pour le
collectif. Il y a une chronologie.
Il a fait quoi?
On va respecter la chronologie. On va faire le tour de table. Cher Abou, Luis Enrique, est-ce un problème pour le PSG?
Je sais plus où j'en étais, mais en gros, je disais que tu parlais si c'est un problème futur ou pas. Je te disais que c'est un... Moi, je trouve que c'est un problème présentement. C'est un entraîneur très arrogant, très hautain, qui, même dans son attitude en conférence de presse, c'est monsieur je sais tout. Et on l'a même vu en Coupe du Monde avec quand l'Espagne a affronté le Maroc. C'est quelqu'un qui prend tout de haut ses adversaires. Et on a vu comment ça a fini avec l'Espagne face au Maroc. Et je pense qu'au PSG, ça, sur le long terme, ça va. En fait, le problème va être le même à chaque fois qu'avec les précédents coachs. On va arriver au mois de février. L'équipe de Luis Enrique sortira en 8e de finale si elle n'est pas sortie avant, comme je l'ai annoncé lors de la première émission d'ici. Et on reviendra sur Luis Enrique. Oui, c'est un mauvais coach. Oui, il est arrogant. Oui, etc. etc. Et à la fin de la saison, bis repetita, on changera de coach encore une fois au PSG. Et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais, est-ce que l'effectif du PSG il est fort ou pas? Mais moi je l'ai dit ici en début de saison, mais je trouve pas l'effectif du PSG si fort que ça finalement. En fait, sur le recrutement, sur le papier, il y a des bons noms, tu te dis ah ouais là c'est bien construit. Sur le banc, tu te dis ah ouais là il y a des possibilités d'échange sur le banc. Mais en fait, au milieu de terrain, Stéphane, il n'y a rien qu'à changer au PSG. Au milieu de terrain, tu t'es affaibli, tu perds Verratti, tes milieux de terrain c'est Ugarte, Vitinha et
j'ai jamais dit
Zaire Emery. Mais quand eux partent, c'est fini. Carlos Soler l'année dernière, c'était pas ça. Vitinha, on l'a vu en fin de saison l'année dernière, ça coulait, ça coulait. Fabian Ruiz, j'en parle même pas, je sais même pas ce qu'il fait Fabian Ruiz, je sais même pas s'il joue encore au football. T'es obligé de te retrouver avec des systèmes où tu fais descendre Barcola au milieu de terrain, mais Barcola c'est un attaquant, ça je suis d'accord avec toi Stéphane. Ça veut dire même quand tu le mets au milieu de terrain, bah ça, c'est quand même un élément offensif de plus. Et où tu mets Kangin Lee, pareil, au milieu de terrain, c'est problématique.
D'abord, c'est un joueur
Barcola,
important.
Barcola au milieu de terrain, finalement ça marchait face à l'OM.
Oui, mais face à un OM, est-ce qu'on a, c'était quel OM, Malik? Bah en fait, c'est ça. Moi, je pense que le match contre l'OM, ça doit pas être un match référence. Moi, j'ai vu les commentaires après ce match-là. Oui, c'est bon, on est meilleur que l'année dernière, on va tout écraser. Mais c'était contre quel OM? C'est cette question qu'il faut se poser. C'était contre quel OM? Un OM malade?
Ibrahima, tu as raison, mais faut arrêter un peu les amis. On va se donner la parole. Ibrahima, tu souhaites réagir?
Oui, je voulais revenir sur ce qu'avait dit Stéphane, la remarque qu'il avait fait tout à l'heure par rapport à Marquinhos. Quelle que soit la composition, il a été nul. Et ce n'est pas la première fois, il est coutumier du fait. On se souvient face au Real Madrid, ce qu'il fait il y a 2 ans, il me semble. Il est souvent nul à des moments clés en Ligue des Champions. Et qu'on joue en 3-5-2, en 4-2-3-1 ou en 4-3-3, il n'a pas été aussi nul. Je suis désolé, à un moment donné, il est capitaine. Enfin, je ne sais pas, Alexander Isak, c'est grave ce qu'il lui a fait tout le match. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est très grave.
Oui, c'est vrai qu'il a souffert. Ouais,
c'est pas la première fois. Je suis tout à fait d'accord.
Il n'y a que Stéphane seul qui le défend. Je ne sais pas pourquoi.
Non, je ne le défends pas. Je le défends. C'est fou, quoi. Je le défends absolument. D'abord, je tiens à dire que pour le milieu de terrain, je suis à 2000% d'accord avec ce qu'il y a à dire.
Mais c'est grave. Si tu es d'accord, je suis tout à fait d'accord. Et en même temps, tu me dis que tu es très optimiste.
Je dis, cette équipe du PSG. Mais parce que ce que
je finis, t'inquiète pas, on a le temps là, les amis. Mais si le milieu de terrain, il est pas bon, Stéphane, je suis désolé. Une équipe, c'est le milieu de terrain. Je suis désolé. Tu peux ne pas être très percutant en attaque, mais si tu as un bon milieu de terrain, tu peux négocier un match et arriver au tir au but. Hein.
Tout peut arriver dans le foot. Donc, on l'a vu avec Lens qui a battu Arsenal. Mais aujourd'hui, si j'avais envie de faire un pari pour gagner de l'argent et tout, je parierais effectivement que le Paris Saint-Germain ne va pas dépasser le stade des quarts de finale. Abou rajoutera peut-être avant.
Mais est-ce que le PSG là, sortira même des poules? C'est la question.
Voilà. On peut penser ça. Moi, je pense, le regard simplement que j'essaye d'expliquer depuis tout à l'heure ici, je suis d'accord aussi avec ce que dit. Sur ce qu'il a dit sur Marquinhos. Je dis simplement que pour moi, le problème numéro 1 du Paris Saint-Germain à Newcastle, c'est que si jamais on parle les fameuses notes de match là, qui font décrier partout, t'as pas un Parisien qui a au-dessus de 2 ou 3. Quoi. Donc,
mais moi, j'ai trouvé, sur le quotidien du sport, malgré
n'importe où, je pense.
Parce que moi, j'ai vu d'autres...
T'as des meilleures notes?
Oui, mais bien sûr.
Mais malgré le fait...
Des Parisiens à Newcastle,
malgré le fait,
Donnarumma, je crois qu'il a eu 4 ou 5 déjà.
Donnarumma, ça a été le meilleur.
J'allais parler de lui, meilleur que deux. Mais moi, je trouve qu'il a une bonne note. Bien qu'il ait encaissé 4 buts, je pense qu'il a fait.
Ça a été le meilleur.
Zahir Emery aussi a fait un bon match.
Oui.
Moi, j'ai trouvé qu'Ugarte, il n'a pas fait un match dégueulasse non plus.
Pourtant, il est sorti,
mais j'ai pas compris pourquoi.
Ugarte est en dessous de ses performances habituelles.
Il fait sortir Ugarte en dessous du collectif.
Non, c'est pour moi, je pense que Ugarte, vraiment, on n'a pas aimé Ugarte.
Peut-être parce qu'il estime qu'il est plus créatif. Mais pour dire, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Le seul truc dont je suis le seul à mettre en avant ici, c'est que pour moi, Newcastle n'est pas une bonne équipe sur ce match-là. Voilà. Donc là, tout le monde va bondir. On verra à la fin de la poule.
C'est grave.
Si je me suis trompé,
Newcastle n'est pas une bonne équipe. Non. Mais Newcastle arrive à battre le PSG 4-1.
Nice, en tout cas, n'est pas meilleur que Nice n'a été au parc. Nice a gagné 3-1, je crois, un truc comme ça.
Chakenza,
oui.
Réaction.
Moi, vraiment, ici, j'aimerais vraiment, je sais pas, clarifier un truc à propos des Marquinhos. À un moment donné, au PSG, il faut qu'on arrête d'accuser les cadres. C'est ce qu'on a fait par le passé avec Thiago Silva. On l'a traité de tous les noms. Il arrive à Chelsea, c'est un autre Thiago Silva. À un moment donné, l'environnement aussi, ça joue beaucoup.
Mais ça c'est pas notre problème.
C'est pas notre problème. Marquinhos ces dernières années, vraiment Marquinhos, il est en dessous du Marquis qu'on a connu. À peine quand il arrivait, vraiment on lui promettait une belle carrière et tout ça au niveau du PSG, Mais 7, même s'il est en dessous, ça dépend aussi de la défense. Vraiment, il joue avec qui? Skriniar, c'est un défenseur qui est claqué. Skriniar, depuis le début de saison, je sais pas, le gars, il est arrivé, il était même pas en pleine forme.
Plutôt un bon...
Non, il n'était même pas en pleine forme. Il n'était même pas en pleine forme.
Vous le trouvez mauvais?
Même hier face à Rennes, il était en difficulté.
Moi, je n'étais pas spécialement fan, mais je ne le trouve pas mauvais.
Il était en difficulté face
à Rennes. Non, c'est fou.
Non, il n'est pas mauvais.
Hier à Rennes, je pense, ça a été un des meilleurs parisiens à Rennes.
Il était en difficulté. Moi, je suis. Face à Rennes, il a fait combien d'interceptions? Vous pouvez me dire, il a fait combien d'interceptions? Il a gagné combien de duels? Vous pouvez me dire.
Il en a gagné plein, impassable.
Moi j'aime les statistiques, mais pas poussé juste à un certain point. On n'est pas au basket.
Non, mais ça dépend si
là
ça
peut être. Abou va peut-être aller le chercher pendant le temps.
Non, mais ça ne veut rien dire. Parce que
déjà, parce que c'est pas un milieu de terrain. C'est le milieu de terrain, généralement, on calcule le nombre d'interceptions.
Quand tu mets un ballon en touche, quand je sais pas par rapport aux statistiques s'ils pourront dire grand chose, parce que quand tu veux. Tu défends et que tu mets le ballon en touche, est-ce que c'est considéré comme un duel gagné? Je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que hier à Rennes, Skriniar, il a été impassable, quoi. Il n'a pas été passé une seule fois de tout le match, quoi. Il a fait un très bon match. Maintenant, je pense que on est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord pour dire que le système, moi, plus que système, je parlerai plus moi d'animation. Je sais pas, moi je dis juste bon, extrêmement pour un petit peu bouger les gens, je dis que ça aurait été pareil avec Vitinha, je sais pas, on le saura jamais puisque ça n'a pas été le cas et, au coup d'envoi. Maintenant je dis que je maintiens que mettre cette composition d'équipe là, c'est effectivement du risque, probablement un manque de prise en compte de la valeur de l'adversaire et des conditions de match qui peuvent être compliquées pour toi. Mais par contre, tout est foireux. À partir du moment où tes joueurs y répondent comme ça, c'est foireux. Et je suis désolé, on parle de foot. Le foot, c'est beau. C'est bien le foot. Mais quand un mec de 1m90 fait un tacle sur un tacle à l'arrache sur un joueur qui se relève, qui la victime et tout, moi, personnellement, c'est pas ce que j'aime dans le foot. Moi, c'est pas maintenant, ce que j'aime dans le
match. Tu l'as exprimé rapidement.
Moi, j'avais quelques petites remarques sur le match, etc. Hein, parce que l'arbitre aussi a plombé le match, mais on n'a même pas le droit d'en vouloir à l'arbitre. Le deuxième but, il doit jamais être accepté. Ouais, il y a main claire. Et voilà, et je voulais pousser un gros coup de gueule contre les commentateurs qui étaient aux commentaires de ce match-là, qui n'arrivaient même pas à savoir.
Ça dépend, tu regardais le match sur quelle chaîne aussi.
Oui, bon, c'était un peu partout. Hein, tous les consultants étaient un peu à la ramasse. Hein. Ils étaient tous dans le truc, même à la mi-temps, on les voyait. On sait pas qui a mis la main. La main est très claire. Moi, je la vois de ma télévision. Vous avez des réalisateurs qui font des images spéciaux pour vous. Vous ne pouvez pas dire que vous ne voyez pas que la main elle est aussi claire que de l'eau de roche. Il faut arrêter deux secondes. La main, elle a été très claire. Il a mis main avant... Le capitaine de Newcastle a mis main avant que la balle soit renvoyée. Il y avait clairement main. Je ne vois même pas sur quoi on va discuter. Le but, le deuxième but n'aurait jamais dû être valable.
Ça aurait pu être en 30 secondes chrono, ça, mon cher.
Non, mais à part ça, franchement, la composition... C'était n'importe quoi. Et les joueurs, ils ont pas suivi le truc, hein, y a pas de problème. Mais contre Clermont, ils ont mieux joué, mais avec la même compo. Ils ont pas réussi à mettre un but avec 26 tirs, 9 cadrés, etc. Tout ce que vous voulez. Mais ils ont pas réussi à mettre un but. Le match d'après contre Newcastle, tu peux pas retenter la même chose. Voilà,
merci Eladj. Vous êtes sur mon Paris FM dans
Au bout du foot. Je pense qu'on dit la même chose.
Nous analysons les performances des clubs français lors de la seconde journée européenne. Quel match vous a le plus impressionné? Quel match vous a le plus déçu? On a parlé de Newcastle, PSG. On va cette fois-ci s'arrêter sur les Lensois, justement. Les 100 et or ont réussi à la prouesse de battre Arsenal. Arsenal, soit dit en passant, qui a battu City hier même 1-0. Que vous inspire cette victoire?
Elle m'inspire de
Lens. Oui, Stéphane.
Déjà, bravo Lens, mais je suis désolé.
Mais
parce que j'ai vu les deux matchs de bout en bout et il n'y a quand même pas photo. C'est pas du tout le même Arsenal que tu as vu sur les deux matchs, quoi. Donc, je ne sais pas ce que veut dire ce mais, je ne le sais pas moi-même.
J'ai pas tout compris. T'as vu les deux matchs, c'est-à-dire quel match et quel match?
Lens-Arsenal et Arsenal-City.
Mais Amalie, qui ne peut pas dire ça, Stéphane, vu que c'est la même personne qui me disait que Marseille, face au PSG, on ne pouvait pas dire que c'était un Marseille malade. Donc, c'est la même chose pour Arsenal. Le Arsenal qui était contre Lens, c'est le même qui était contre. Si, c'est la même chose, ça revient à la même chose.
Entre malade et mauvais, il y a une distinction des mots. C'était un mauvais Marseille contre Paris. C'était pas forcément un Marseille malade.
Aujourd'hui, qui c'est qui est leader de sa poule? dans la poule d'Arsenal, de Lens. Bah,
c'est Lens. Non, mais c'est Lens.
Non, mais vous allez me dire que sur deux matchs, c'est un hasard, ça?
Ah non, non, moi je suis. Non.
Non, mais non, c'est pas un peu de respect, les amis. Sachant que Lens n'est pas en Ligue des Champions par hasard.
Ouais.
Donc Lens a effectué une saison antérieure excellente. Philippe Carnu, bonsoir.
Salut Malik. Ça se trouve, Lens, ils vont faire ce qu'a fait Lille il y a deux ans. Lille, on ne les attendait pas il y a deux ans. On disait que Lille allait sortir de la groupe. Et puis finalement, ils ont déjoué tous les pronostics. Ils sont arrivés en huitième. Lens est peut-être parti pour faire un même parcours, peut-être pour sortir de la poule et pourquoi pas pour aller jouer un huitième de finale. C'est le foot. Voilà. Parfois, il y a des exploits. Il y a des équipes qui ont deux matchs, qui gagnent dans un championnat sans être très brillants. Et puis, il y a tout un peuple qui attend qu'il refasse une Ligue des Champions depuis plus de 20 ans. Voilà, c'est le foot.
Est-ce qu'on doit minimiser la victoire de Lens face aux Gunners?
Non, je pense qu'on ne doit pas minimiser. Moi, je pense que c'est l'acheminement d'un travail de Frank Hess depuis la saison dernière qui fait un bon boulot. Je ne sais pas, mais pour moi, il est sous-coté, cet entraîneur. C'est-à-dire, il n'est pas reconnu à sa juste valeur en France. Pour moi, parce que je pense que là, il fait un très bon boulot. Quand tu regardes le match face à Arsenal, il gagne le match, c'est un coup tactique. Parce qu'à un moment donné, ils ont été meilleurs. Certes, ils n'ont pas eu vraiment...
Le coup tactique, c'est quoi précisément? Qu'est-ce qu'il a mis en place que toi, tu as vu, qui a fait la différence?
Moi, de mon côté, je pense que le coup tactique, ça a été au milieu de terrain. Certes, à un moment donné, Arsenal, ils avaient le ballon. Et Lens, ils ont été très bons en jeu de transition. C'est-à-dire, quand tu marques, les deux buts qu'ils marquent, le deuxième
parce
but.
Parce qu'ils encaissent le premier but. Hein.
Oui, bien sûr.
Donc, ils auraient pu se recroqueviller.
Voilà. Et après, ils sont mis sous pression dès l'entame du match. Après aussi, Frank Hess, c'est quelqu'un vraiment qui joue beaucoup sur le côté mental et tout. Il sait galvaniser ses troupes, les remettre en ordre et tout, et leur apporter ce surplus qui manque beaucoup. Et je pense que du côté du PSG, c'est pas le même management, c'est pas les mêmes méthodes de management. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'attitude de Lens. Après qu'ils encaissent le premier but, c'est-à-dire ils n'ont pas le moral dans les chaussettes et tout. C'est des gens qui veulent aller, qui aillent au combat.
Ce que tu dis est tellement vrai que quand on regarde qui c'est qui concède le but, entre guillemets, d'Arsenal vis-à-vis de Lens, c'est le même qui égalise derrière.
Thomasson.
Donc ça veut dire quoi? Ça relève exactement ce que tu dis.
De l'état d'esprit
c'est
de l'équipe
vrai,
et tout.
Un réel état d'esprit.
Oui, un état d'esprit vraiment qui est propre et tout. Je pense que Lens, ils ont tous les moyens vraiment pour faire une bonne saison de Ligue des Champions. Oui. Après aussi, on connaît vraiment les équipes françaises et tout. Au début, c'est bien beau, mais à un moment donné, il faudrait être dans la constance. C'est-à-dire là, vraiment, Lens, ils sont en train de nous habituer à un truc que s'ils enchaînent, ils font un troisième mauvais match, mais on va les tirer là-dessus, ça c'est
mais
clair.
Mais justement, est-ce que c'est pas ça aussi, Ibrahima? Est-ce que face au PSV Eindhoven, Lens se dira pas j'ai réussi à battre Arsenal,
j'ai fait
le plus dur et que finalement se prendre une raclée face au PSV.
Non, je pense pas.
On l'a souvent vu chez les clubs français.
C'est vrai que nos équipes françaises en compétition européenne, c'est toujours assez imprévisible. Après, j'ai vu le match d'Arsenal contre le PSV. C'était assez compliqué. Maintenant, pour revenir le match d'Arsenal contre Lens, c'est vrai que Arsenal a marqué très tôt dans la partie. Donc, je pensais que ça allait être assez compliqué pour Lens de revenir. Ils ont réussi à revenir. Et il y a un fait assez marquant aussi dans le match, c'est la blessure de Saka. Ce qui fait qu'Arsenal, après, a eu beaucoup de mal offensivement à ne serait-ce que mettre un peu de rythme ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est un point qui est aussi à relever du côté d'Arsenal. Même si hier ils ont remporté le match face à City, offensivement quand Saka n'est pas là, c'est assez compliqué. Et par exemple un joueur comme Havertz, c'est toujours pas ça. Il y a les remplaçants comme Nelson, c'est pas convaincant. Et je veux pas dire qu'il y a une dépendance Saka, mais presque quand même du côté d'Arsenal. Et très bon match aussi d'Eli Wahi, sur qui j'avais pas mal de doutes en début de saison. Il a su faire preuve de beaucoup d'abnégation, il a beaucoup couru et il a fait une très belle passe décisive aussi sur le premier but, et avec le but aussi qui marque en seconde période. Donc, très bon match de sa part.
Jolie conception des deux buts en soi, en l'occurrence.
Ouais, beau, les buts.
Et aussi bien le but de Thomasson que le but d'Eli Wahi. Des très, très beaux buts dans la conception. On sent que
superbe, les buts.
Quand on voit Lens jouer, c'est là où
c'est le cœur. Ils ont joué avec le cœur.
Non seulement ils ont joué avec le cœur, mais tu sens qu'il y a un travail derrière.
Oui, il y a un travail vrai.
Il y a des gammes qui sont répétées. Tu sens bien que tout ça, c'est des situations de jeu qui sont préparés, entraînés, cher
Je suis
Stéphane.
D'accord, mais moi, je reviens sur ce que je disais au début. C'est-à-dire que c'est l'inverse exact du Paris Saint-Germain, quoi. C'est-à-dire qu'à Lens, tu as quand même eu des joueurs, Lensois, les joueurs de Lens, donc bien sûr, que tu n'as jamais vu à ce niveau-là. Moi, j'ai vu tous les matchs de Lens depuis le début de la saison, que tu n'as jamais vu à ce niveau-là depuis le début de la saison. Danso, on le disait un peu moyen en ce début de saison et tout. Ils encaissaient beaucoup, beaucoup de buts, quoi. Bon, Medina, il a toujours été à peu près correct, même s'il a fait un match énormissime. Au milieu de terrain, ils avaient des gros problèmes au milieu de terrain. Et tous les joueurs ont été quasiment à 200%, quoi. Et ils ont réussi face à une équipe qui, contrairement, je n'en démords pas pour ma part, contrairement à ce qu'a dit Arteta, a certainement pris un peu ce match de haut, même si pas lui forcément, les joueurs en tout cas, de venir à Lens chez le petit, je crois que Lens c'est le plus petit indice UEFA des 32 équipes de la Ligue des Champions, ils ont forcément un petit peu pris de haut, quoi, parce que ça, et en plus quand ils ont marqué le but, ils se sont dit ça y est, on va rouler directement vers la victoire. Moi je peux pas croire que, j'avais deux choses à dire par rapport à ce qui a été dit. Je peux pas croire déjà que Saka ait déstabilisé l'équipe à ce point-là. Un quart d'heure, 20 minutes jusqu'à la mi-temps, peut-être, effectivement, sur le coup, mais après, on a quand même des grands coachs qui est actuellement avec Tottenham en tête de la Première Ligue, donc qui savent réagir par rapport à ça. Et puis, il faut arrêter de dire Francaise est un entraîneur sous-coté en France. Francaise, il a eu le trophée du meilleur entraîneur français. Francaise, il a eu la cour de Nice, par exemple, d'un club comme Nice, comme Marseille, je crois aussi, cet été pour venir les entraîner. Pas le PSG, ils montent peut-être le PSG parce qu'ils ont eu la mauvaise expérience de Christophe Galtier. Donc on peut pas dire que c'est en tout cas en France, peut-être à l'étranger,
à suivre dans tous les cas. Elad, est-ce que tu penses que Arteta a pris de haut cette équipe lensoise?
Non, du tout, je pense pas qu'il ait pris de haut
cette équipe. Les joueurs, il moi, l'a je dit.
Il... Non, je pense pas.
Non, il pas a... ricocher les joueurs.
Voilà. Moi, je pense, mon avis en tout cas, je ne pense pas parce qu'il l'a dit lui-même, je regarde Lens et Lens est une bonne équipe. Et voilà, moi, clairement, contrairement à ce que Brahim disait, il y a une Saka indépendance pour moi. En tout cas, une Martinelli-Saka parce que
oui,
quand
Martinelli aussi,
et Saka n'est Martinelli, pas là, parce que quand Martinelli et Saka ne sont plus là, Fabio Vieira, etc., c'est pas du tout ça. Gabriel Jesus, il est là pour finir les actions, mais pour qu'il s'ancre sur un ailier, il peut pas jouer sur le côté, c'est très difficile. Nketiah, faut qu'on lui mette le ballon devant pour qu'il marque parce que c'est un attaquant un peu pur ou qui peut prendre la profondeur, pas plus. Mais voilà, pour moi, ce sont les choses qui ont manqué. Et depuis que Saka est sorti, bon, on a bien vu hein, la récupération, même si c'est une erreur de Tomasso, récupération de Saka, passe décisive, but. Et Saka, c'est le seul qui apporte un danger. Dès qu'il a le ballon dans les pieds, tu sais pas ce qu'il va faire. Il va aller à droite, il va aller à gauche, il va te l'enrouler au deuxième poteau. Tu sais pas ce qu'il va faire.
Il crée le déséquilibre.
Voilà, et dès qu'il est sorti à la 25e minute, moi je pense que c'est là Arteta n'avait plus d'armes, il avait plus d'armes offensives et on a vu hein, tous les ratés quand même. Moi, je tire mon chapeau à Lens et à Philippe qui avait annoncé Lens.
Ah oui, gagnant. Joli pronostic d'ailleurs, un hein. Chapeau.
Qui avait annoncé.
Ouais, t'avais annoncé 2 buts à 1 pour Lens.
Voilà, qui avait annoncé Lens gagnant. Moi, je pense juste que Arteta n'avait plus d'armes offensives et on a vu tout ce qu'ils ont raté. Hein. Le raté de Trossard qui met un crochet et qui Brice Samba aussi qui a fait un très beau match. Ouais. Mais il y a eu beaucoup de ratés, des ballons sur la ligne qui finissent pas au fond. Il y a eu beaucoup de choses quoi. Voilà, mm-hmm. Lens ont gagné mais dans la difficulté.
Ouais. Abou, le public lensois, tu penses véritablement que c'est un vrai atout pour cet effectif?
En tout cas, ça ne joue pas contre eux. Un atout, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'un public, ça fasse gagner un match. Oui. En tout cas, moi, je fais pas partie de ceux qui pensent qu'un public puisse faire gagner un match à une équipe de football. Je pense que si... En face, si
là,
les
11. Stéphane, là.
Non, mais. Tant que tu t'en souviens, Dave. Ça sera mon avis.
J'ai eu l'impression d'avoir le souci.
J'en démords pas. Le souci. Je suis encore à Marseille.
Je suis d'accord avec lui. Non, c'est juste que l'équipe lensoise, ce soir-là, était supérieure. Aux Gunners d'Arsenal, mais non, je pense pas qu'un public te fasse gagner un match. C'est un soutien incontestable. Quand le public il se retourne contre toi, c'est difficile. Mais je pense pas que si demain Quevilly va à Manchester City et qu'il y a tout le public, toute la ville de Quevilly derrière Quevilly, je pense pas qu'ils vont frapper Manchester City.
D'ailleurs, on salue nos amis de Quevilly.
Faut pas abuser. On n'a pas dit faut pas en abuser. Moi, je pense que deux équipes qui se valent un peu, mais voilà. On sait là, quand il y a des supporters.
On va pas ouvrir un débat derrière, sur ce chapitre-là.
C'est galvanisant en plus.
Moi-même, de chez moi, j'ai des frissons. Alors, dans le terrain, sur le terrain.
Personne n'a dit le contraire.
Ça motive.
On a dit que ça ne fait pas gagner un match.
Je pense que ça motive. Et ça joue.
On a dit que ça ne fait pas gagner un match. Les Montada, Liverpool, Barcelone, ils le font pas.
Les amis,
on dit que ça ne fait pas gagner un match.
Les
Montada, Liverpool, Barcelone, quand tu regardes,
ça ne fait pas gagner un match.
C'est les deux amants d'Anfield, vraiment, qui joue en défaveur des joueurs barcelonais.
Ah, oui.
J'avais l'impression que
c'est eux qui ont marqué, c'est eux qui ont marqué aussi.
Mais on avait l'impression que Messi avait les jambes lourdes ce jour-là.
On finit dans 50 minutes et on n'a pas abordé pas mal de thèmes, hein, les amis. C'est un sous-chapitre du débat, des débats que nous avons aujourd'hui. On a parlé du PSG, on a parlé de Lens. On va s'arrêter sur Marseille. Marseille est allé faire match nul, hein, 3 buts partout face à
2
buts partout. C'était Ajax, c'était le premier Ajax. 2 buts partout. Vos réactions?
Bah, c'est Stéphane, tu commences avec plaisir vu que tu voyais Marseille se faire ratatiner.
Ouais, ouais, je voyais Marseille se faire ratatiner. Donc bonne surprise.
Pour toi, c'est une bonne surprise. Marseille menait au score.
Ah ouais, non, mais même c'est une bonne surprise.
Même avec la physionomie du
bonne match, surprise. Moi, même quand ils mènent 2-0, je les vois perdre 3-2. Moi, je pense qu'ils vont perdre 3-2 si tu me demandes.
T'étais
de
pas
parier.
Très loin.
Maintenant, et je suis pas très loin effectivement parce que le match dure 10 minutes de plus. À mon avis, on y va tout droit. Malgré donc petite allusion aux supporters, malgré que c'est certainement un des 2-3 meilleurs. Avec Lens, le meilleur public de France, le Stade Vélodrome et les Marseillais. Donc ça a pas, ça a pas joué.
Strasbourgeois aussi.
Ouais, ça leur a pas permis de tenir. Donc pour moi c'est une bonne surprise. Pour moi c'est une très bonne surprise.
Ouais, mais je pense que le fait qu'ils se soient fait remonter de 2, ça montre encore la fébrilité de cette équipe de Marseille, qui est pas capable de tenir un résultat. Et je pense que malheureusement, il y aura d'autres situations comme ça dans les saisons. C'est assez fréquent hein, pour les Marseillais hein, de ne pas pouvoir préserver.
C'est très bien résumé par Gennaro Gattuso. Il t'explique que c'est une équipe qui a été formée, qui a été entraînée en début de saison sur 60 minutes. Moi, je pense qu'on va le laisser travailler encore un peu plus et son équipe, elle sera prête pour 90 minutes.
En fait, tu m'as volé la question.
Désolé.
Justement, est-ce que tu es d'accord avec Gattuso justement face à ces remontadas successives comme ça qui arrive à Marseille? Est-ce que tu es d'accord? Parce qu'il a dit hein, de façon franche que Marcelino a travaillé avec les jeunes joueurs pour 60 voire 65 minutes de jeu.
Ben oui, et là vraiment c'est un problème vraiment récurrent parce que quand tu regardes, il y a un match où ils sont menés 2-0, ensuite ils reviennent au score, même la non-qualification en Ligue des Champions, c'est pareil. Parce que c'est comme si Marseille il faisait des débuts de match. C'est-à-dire, la première mi-temps, en vrai, tu as deux équipes de Marseille. Tu as une équipe qui est super bonne en première mi-temps et tu as une équipe qui dégringole en seconde mi-temps. C'est-à-dire, à un moment donné, ils n'ont plus les automatismes.
C'est forcément physique.
Moi, je ne comprends pas. C'est
au niveau de la préparation et moi, je pense mental, que. Au niveau du physique, on peut relâcher. Mais le plus important, c'est le mental. C'est-à-dire, au foot.
Le mental fait gagner un match, Malik. Le 12e homme, plus le mental, tu n'as même plus besoin de savoir jouer au foot. Il faut avoir dans la tête et le public et c'est beau. Tu finis champion de France.
Là, vraiment, on ne parle pas des amateurs, mais on parle de l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire, quoi. Physiquement, on peut être vraiment. Physiquement, on peut être débordé. Mais avec le mental, il y a le deuxième souffle qui s'appelle le deuxième souffle. C'est-à-dire, à un moment donné, physiquement, quand tu regardes les équipes qui jouent des 120 minutes et autres, à un moment donné, physiquement, ils sont claqués. Mais c'est le mental qui les permet. Parce que le foot, ça se joue avec les pieds, mais c'est la tête qui réfléchit.
Non, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas que dans le foot.
Non, mais regarde, juste un exemple, la Coupe de France.
Ouais.
Voilà. La Coupe de France, il y a des petites équipes
qui arrivent à battre les plus grandes.
Parce qu'ils ont un surcroît mental ce jour-là.
Tu peux nous donner les minutes des buts ou pas?
De quel
de Brighton.
Il y a un but en début de seconde période, si je dis pas de bêtises.
Donc c'est plus 60 minutes alors qu'ils ont dans les jambes les Marseillais. C'est 40, si on suit ce règlement, ce raisonnement, c'est 45 minutes.
On va pas réagir là-dessus à la minute près.
Non, mais
l'idée c'est de dire que le foncier marseillais n'a pas été travaillé.
L'idée c'est de dire que tu ne peux pas dire. Ce qui est une excuse toute trouvée de tous les entraîneurs. Je te mets au défi de trouver un entraîneur qui arrive en cours de saison, surtout en début de saison comme ça, et qui dit « Oh, moi, mon équipe, elle est top, elle est en forme physiquement, machin. » Tous, Laurent Blanc, quand il est arrivé à Marseille, quoi, tous, ils vont te dire ça. Donc, c'est normal.
Mais maintenant, si c'est le cas…
Si c'est le cas, d'accord, admettons que ça soit le cas. Ils peuvent jouer 60-65 minutes. Là, le problème marseillais, il commence dès le début de la deuxième mi-temps. Donc là, c'est peut-être l'aspect psychologique, l'aspect mental. Moi, personnellement, je dirais que c'est l'aspect principal, c'est la faiblesse de la défense marseillaise, la faiblesse du recrutement dans le secteur défensif de l'Olympique de Marseille qui provoque ça. Et je crois que combien de buts en 4 matchs ou en 5 matchs ? 10, 12, 14 buts encaissés en 5 matchs ? ou en 4 matchs. Donc il y a un gros problème au niveau de la défense de l'OM. Mmh. Et je ne pense pas que ça soit. Alors peut-être que.
Les centraux ne sont pas bons. Hein.
Ouais, peut-être
Mbemba,
que
Balerdi, Mbemba, Mbemba, Gigo.
Ouais, je pense que les trois centraux ne sont pas au niveau. Ils ne sont pas au niveau de la Ligue des Champions.
Ibrahima, réaction Marseille, 2 buts partout. Brighton.
Déjà, j'aimerais bien savoir comment Marcelino a pu préparer l'équipe pour 60 minutes seulement, sachant qu'il y avait des matchs assez tôt dans la saison, notamment avec des barrages de Ligue des Champions.
Non, mais ce qu'il a expliqué en fait, c'est qu'il a dit que, en gros, une phrase, quoi, comment elle a été traduite, je ne me rappelle plus le mot exact, mais limite insultant quand même, pour jouer, il a dû jouer, ça a été traduit un peu genre, il a préparé les skills, l'équipe pour jouer pépère, donc pépère pendant 90 minutes, c'est bon, mais avec ma façon de jouer à moi, c'est 60-65 minutes. En gros, pour résumer, c'est ça qu'il a dit.
Je ne sais pas si ça a du sens tout ça, mais factuellement,
non, ça n'a aucun sens.
Que ça se ressent sur le terrain en tout cas.
Marseille se fait remonter assez régulièrement. Cher Eladj, je pense que tu as dû voir le match face à Brighton, ton sentiment?
Oui, en fait, la première émission, je l'ai dit, ça a été enregistré, hein, première émission, je l'ai dit, j'ai dit Marseille, ils ont le cardio pour jouer 45 minutes, 60 minutes, pas plus. À partir de 60 minutes, ils sont carbo et sur le banc, ils ont personne. C'est exactement ce que j'ai dit et je le réitère aujourd'hui.
Marseille a un banc quand même, tu peux pas dire ça. Marseille a un
banc. Non, t'as pas dit sur le banc. Quand tu dois faire rentrer Mugue à droite, c'est vraiment chaud.
Je te dis, ils ont aucun banc.
Ils n'ont pas de profondeur de banc.
Même hier, c'est Bilal Nadir qui rentre au milieu, c'est chaud.
Déjà que sur le terrain, c'est moyen. Alors sur le banc, c'est encore pire. On va même pas en parler. Moi, je vous dis juste, j'ai regardé le match. Voilà. Franchement, honnêtement, j'ai été surpris. J'ai quitté le match pendant 2 minutes. J'ai quitté le match 2 minutes. Je suis revenu, il y avait 2-0 pour Marseille. Clairement, j'ai quitté le match pendant 2 minutes. Je suis revenu, il y avait 2-0 pour Marseille. Mais même en sachant qu'il y a 2-0 pour Marseille, en fait, voilà.
Mais
un
pourquoi
petit chrono,
tu dis ça avec le sourire comme ça là?
Parce que je savais qu'ils allaient pas gagner. Ah là, et c'est à ce moment-là carrément, je te le dis honnêtement, et pour Stéphane qui fait des pronostics, etc., il peut toujours mettre Marseille gagnant première mi-temps, deuxième mi-temps, ils ont perdu le match ou il y a match nul, au mieux, mais ils ne gagnent pas le match. Oh, ça serait une très belle coach, je pense. Mm-hmm. Mais en tout cas, je savais, et franchement, le coach de Brighton, ils avaient Liverpool ce week-end, il n'a pas mis Ferguson titulaire, Joao Pedro, il ne l'a pas mis titulaire, il les a fait rentrer après. Parce qu'on a vu la différence aussi quand eux ils sont rentrés, il a mis une équipe avec un peu de remplaçants parce qu'il s'est dit ça va le faire, de toute façon c'est Marseille, même au Vélodrome ça va le faire, et c'est ce qui a fait le 2-2. Mais match retour, je pense que ils vont
parler dans les derniers instants du match aussi. À un moment donné, j'avais l'impression qu'ils attaquaient à deux avec du côté de Brighton avec Joao Pedro et Mitoma, ils ont quand même réussi à marquer. Je trouvais ça assez...
Non, mais Mbemba, il a la ramasse. Hein.
Puis, ah oui, non, mais c'est.
Et puis,
c'est
je vais dire mes félicitations quand même à Lopez. Hein, Paulo Lopez, qui a fait quand même un bon match, hein, parce que c'est un goal.
De temps en temps, c'est bien.
Je décris régulièrement.
Qu'il en fasse au moins de temps en temps, c'est quand même bien.
Sur ce match-là, chapeau. C'est peut-être la menace Loris en Ligue de Mire qui l'a boosté. Sait-on jamais, parce que apparemment, Loris serait dans les petits papiers.
Sinon, il faut du coup. Du sport, ça
le conduirait à l'Olympique de Marseille.
C'est pas vous, ça?
Non, c'est juste que franchement, Loris est libre, il a de l'expérience.
Ils hésitent, Marseille, entre Dja et Loris.
Ça, c'est une info quotidien du sport.
Il y a un nouveau gardien.
C'est un peu ironique, c'est pas dans le quotidien du sport.
Il y a un nouveau gardien, Giroud.
Qui peut concurrencer pour Lopez, carrément.
À présent, les amis, on va s'attaquer à Rennes. Rennes a fait une défaite, a concédé une défaite face à Villarreal avec un pénalty. Ouais, mon cher Stéphane.
Pas de chance, ouais, vraiment,
manqué,
là, c'est le coup du...
quasiment à la dernière seconde.
Ouais, alors c'était pas la...
c'était la belle histoire.
En plus, moi, j'ai pas trouvé un Villarreal
explosif.
Non, mais de toute façon, Villarreal, c'est quoi? C'est pas, milieu de tableau en Liga.
Ouais, plus
Villarreal,
en ce moment. Ouais.
Moi, ça m'a... Comment?
Plus fin en ce moment,
ouais,
ils sont
plus
pas dedans.
Fin, ouais. Plus en ce moment. Moi, je suis un peu déçu. Je le disais tout à l'heure, j'en parlais avec Philippe dans mon Paris Sport. Ouais. Pour moi, c'est la grosse déception pour moi par rapport à ce que je pensais de cette équipe. C'est la grosse déception de ce début de saison. C'est le Stade Rennais, quoi. Je les voyais pas comme ça.
Moi aussi. Et je pense aussi que le fait que Martin Terrier rentre, vienne de blessure depuis je sais pas combien de temps, etc., et que c'est lui qui doit tirer le penalty dans un moment aussi crucial du match, c'était pas une bonne idée du tout. Ouais, il y a Ludovic Blaise, il est sur le terrain. Pour moi, il aurait dû le tirer. Voilà. Et on a vu, hein, il a loupé le penalty. La tête juste derrière, le gardien est déjà par terre. La tête juste derrière, il cadre pas. C'est catastrophe, quoi.
C'est maudit. On voit quand même sur cette semaine-là, on en parle là, tous ces petits détails, quoi, le ballon perdu par de Marquinhos, une main sur, même s'ils auraient été mauvais, Paris, ils n'auraient même pas mérité de faire un match nul, parce que quoi qu'il arrive, une main pas vue, flagrante, pas vue.
Guimarães, là, le coup de poing derrière la tête.
Le rouge, indiscutable, c'est encore plus que la main. J'arrive pas à comprendre, il court derrière, il tape sur la tête. Mais bon, il n'aurait pas mérité. Les petits détails aussi qui ont permis à Lens de gagner, tous ces petits sauvetages, c'est la blessure de Saka, les choses comme ça. Et puis Rennes, c'est un peu le contraire, mais ça reste quand même un peu décevant.
Ah bon ?
Sur Rennes. Ouais, non, mais j'ai pas grand chose à dire sur Rennes. Ouais, c'est bien la Bretagne, c'est sympa, c'est cool, ils ont perdu.
Ils mériteraient Marcelino comme
entraîneur.
Bon, franchement, Rennes, aime-moi Rennes. Rennes, ça fait quelques années.
Cela dit, deux défaites quand même. Hein.
Ouais,
dimanche
mais.
Dimanche dernier en Europa League. Hein,
Rennes, c'est un petit club de Ligue 1 comme ça qu'on aime bien tacler chaque. Oui, non, c'est sympa Rennes. Moi, j'aime bien moquer des Rennes.
Non, moi, j'avoue, je reconnais. Moi, je suis déçu parce qu'en début de saison, je les mets dans le top 3,
moi. Ils vont finir top 5 de Ligue 1, moi, j'en suis persuadé. Voilà quoi, c'est pas.
Ouais, top 5. Ouais.
Genesio n'est pas content, mon cher Ibrahim.
C'est dommage. Oui, c'est sûr. Après, moi, j'ai pas grand chose à dire sur la rencontre. Très beau but. Très beau but. J'ai bien aimé le but de Sorloth quand même pour Villarreal. C'était un beau but. Après, Rennes, c'est. Enfin, les équipes françaises en Europa League, c'est souvent la même chose. Hein. C'est tellement décevant. Parfois, enfin, je me souviens quand même que Lille s'est qualifié en Conference League dans les prolongations contre le 4e du championnat croate. Enfin,
ouais, attends.
Ça en dit long.
Ouais, t'as vu la 0-0
sans manquer de respect.
Et la 0-0 contre les îles Féroé.
Après, il faut dire quand même, sur 8 matchs, on n'a que 2 défaites.
Rennes, vraiment, Rennes, c'est une équipe depuis quelques années vraiment qui arrive vraiment à titiller un peu les têtes et tout. Ils font un chemin. Mais a dit que Rennes, vraiment, ils feront peut-être une grande saison en Europa League. Vraiment, ça se mentit. Ça, il ne faudrait pas vraiment qu'on puisse se mentir. Et il n'y a pas que Rennes, en fait. Le bilan des équipes françaises
en compétition européenne,
que ce soit Europa League ou Ligue des Champions, ça montre vraiment que. Je comprends pourquoi l'indice IFA, la France, a reculé, le Portugal est devant, parce que là, vraiment, on n'a pas d'équipe vraiment compétitive à mettre sur le continent. Ouais. Hormis Lens, vraiment, qui nous fait honneur, sinon toutes les équipes, c'est en dessous.
Le Portugal est devant.
Ouais, c'est en dessous. Aujourd'hui, le Portugal est devant la France en indice UEFA. Ça montre vraiment que le championnat, je ne sais pas vraiment à quoi le DTN y pense et tout ça, mais il y a beaucoup de choses à mettre.
C'est sûr que c'est pas
assez. Le championnat n'a pas le niveau. En fait.
Nice perd contre le FC Bâle l'année dernière. Fin. En Conference League, mais il y a des éliminations qui.
Non, sur Rennes, oui, Villarreal, moi je sais que en ce moment c'est une équipe qui est un peu malade depuis le début de saison. Voilà, mais je pense.
Et qui nous bat quand même.
Et qui bat quand même.
Oui, c'est ça qui
est grave. En compétition européenne, moi je l'ai toujours dit, les équipes françaises sont trop faibles.
Mais j'avoue, j'avais beaucoup d'espoir pour elles.
Je trouve que c'est une belle équipe, j'aime beaucoup Genesio en plus.
Juste pour rectifier, le Portugal, ils sont pas devant nous, ils sont derrière.
Ils sont derrière maintenant.
C'est le Pays-Bas
qui est devant. Et je pense que d'ici la fin de la saison, on repassera devant les Pays-Bas.
Alors les amis, on va ponctuer le parcours des clubs européens avec le LOSC, avec Lille. D'ailleurs, il y a eu un match nul entre Lille et Lens hier, un but partout, c'est ça. Alors, réaction Lille.
On accorde vraiment autant d'importance à la Ligue Europa Conférence.
Lille fait quoi comme
ils font 0-0. Lille font 0-0. Moi, je savais qu'ils n'allaient pas gagner. De toute façon, il a changé l'équipe. Il a mis une équipe remaniée. Il s'est dit, bon, ça va le faire. Or que non, franchement, t'as pas un deuxième banc qui peut faire. Déjà, même l'équipe A titulaire, je suis pas sûr qu'ils auront gagné haut la main le match. Alors, du coup, tu peux pas te permettre de faire jouer des jeunes qui n'ont jamais joué en compétition officielle. Tu les mets titulaires contre le LASC et tu te dis ça va le faire, or que c'est là-bas, c'est un match difficile.
Tu te rends compte, une équipe des îles Ferroé.
Monaco en tête de la Ligue 1, les amis.
Vous connaissez même pas un joueur là-bas.
C'est déprimant, franchement.
Ah, vous cassez mon lancement là, les amis. Mmh. Monaco en tête de la Ligue 1, est-ce que les hommes du Rocher peuvent rêver du titre? On va transiter par une petite respiration avec Jason et on revient, on en débat. Au bout du foot, bienvenue.
Je te jure, j'ai vu la côte de Lille là, contre les trucs là, voilà, je savais qu'ils n'allaient pas gagner. Le match nul direct, je te jure, j'ai mis nul direct.
Non, en fait, ils sont qualifiés contre Rijeka.
Au bout du foot, seconde partie, on va parler de la Ligue 1, on va parler de l'AS Monaco, ainsi que du club du FC Lorient qui risque la descente. En tout cas, c'est la question que nous posons aujourd'hui. On va commencer par l'AS Monaco. Les amis, est-ce que vous pensez que le bon parcours en ce début de saison de l'AS Monaco peut augurer déjà des velléités, des intentions de.
Moi, je pense,
titre.
Je pense qu'il peut jouer le titre. Ouais, mais...
Philippe,
ah, oui,
faites attention au pronostic de Philippe.
Oui, oui, non, non, mais attention. Bon, dans le, ouais, c'est une équipe qui est assez bien classée régulièrement dans le top 4 ou 5 chaque année. Cette année, bon, il semble qu'ils aient pris une petite dimension. Ouais, je pense. Ils sont capables de, d'aller jouer le titre avec PSG. Ouais.
Ah ouais,
ouais, ouais. Bon, d'aller titiller PSG pour le titre, ouais.
Une équipe concurrente au PSG, ce serait pas mauvais pour bien. Le championnat. Bon, franchement.
Ils finiront peut-être à deux points, mais ils peuvent aller titiller effectivement le PSG.
Chaganza, ouais. Monaco, ouais, moi, impression, tu penses qu'ils peuvent finir oui. champion de France?
Ouais, mais pourquoi pas, puisque ces dernières années, il y a Lille qui l'a fait, mmh. et Monaco aussi une fois, avec la génération Mbappé et tout ça, Moutinho. Ouais, ils avaient une bonne équipe, et pourquoi pas. Après, je pense que la deuxième partie du championnat serait plus importante parce que là, ça sera les phases retour. C'est là aussi les équipes elles ont un peu du mal et tout. Donc, pour l'instant, vraiment, je pense que là, ils font un bon chemin, mais je ne peux pas me projeter ou dire les voir champions ou pas. Mm-hmm. Mais je les vois en tout cas aller au moins en Ligue des Champions parce que mm-hmm. ça fait pas mal d'années qu'ils ne sont pas y allés.
Ibrahima, est-ce que Monaco a l'effectif pour aller au bout du bout?
Aller au bout du bout, je ne sais pas, on verra bien. C'est vrai qu'ils me font une plutôt bonne impression en ce début de saison, sans non plus être flamboyant. J'ai bien aimé la victoire ce week-end contre Reims. Monaco recrute plutôt bien, avec notamment Balogun qui joue à Reims et qui fait un bon début de saison du côté de Monaco. Il y a des joueurs comme Ben Yedder, Golovin qui est là depuis un moment aussi, qui est un très bon joueur de foot. On verra bien ce que ça va donner, mais pour l'instant, j'attends quand même de voir, parce que je pense pas qu'ils aient l'effectif pour, et surtout, il faut voir ce que va faire le Paris Saint-Germain qui... Et plutôt dans le flou en ce moment.
Donc ça dépend plutôt du PSG selon toi?
Moi je pense que ça dépend du PSG. Si le PSG mmh. décide d'être champion, ils seront champions.
Mmh. Mon cher Abou, on parlait de 12e homme à Louis II, il n'y a personne. Hein.
Non, Louis
II, pourtant régulièrement, l'AS Monaco nous donne de bons résultats quand même, ouais. que ce soit en championnat d'Europe ou même en championnat.
Ouais, non, c'est une bonne équipe avec un propriétaire qui avait un peu des problèmes au niveau financier. Là, il y a 2-3 ans, où c'était, il y avait un peu un flou autour de qui dirigeait le club, président, etc. Mais moi, je trouve que c'est un bon club. Mmh. Et moi, je les vois finir champion à Monaco. Et quand Ibrahima il parle de profondeur d'effectif, enfin, moi, je trouve que l'effectif de l'AS Monaco, c'est ce qui m'avait surpris en début de saison. Je n'ai pas suivi leur mercato.
Ibrahima, mais... il dit surtout que ça dépend plutôt du PSG.
Mais il dit aussi qu'ils n'ont pas un effectif assez profond. Enfin, moi, on regarde juste devant Balogun, Ben Yedder, Crispin Diatta, Gelson Martins, il y en a sûrement
Minamino.
Oui, en offensif, t'as Golovin au milieu. Ils se sont débarrassés de Disasi derrière. Ça, c'est la plus bonne nouvelle. On pouvait pas faire mieux à l'AS Monaco.
Surtout
que
pour 50 millions.
Que se débarrasser de Disasi.
Disasi international. Hein.
Oui, d'accord. Ouais, bon, oui, il est international français. Rien, bon. Oui. Lionel Charbonnier aussi est international français. Et champion du monde par ailleurs. Mais, mais moi, je trouve que Monaco, ils ont un effectif bien construit. Un coach avec des idées. Qui joue, qui va de l'avant, c'est une équipe qui marque des buts. Donc franchement, moi je serais pas surpris de les voir champion. Une équipe qui joue rien, qui joue que le championnat et la Coupe de France. Ibrahima a dit si le PSG décide d'être champion, ils sont champions. Je suis content d'apprendre que dans le football, 12e homme plus mental, plus on décide d'être quelque chose et quelque chose.
Est-ce que selon toi, Monaco peut aller au bout du bout, ou tu penses que, comme Ibrahima l'évoquait, non. ça dépend surtout du comportement des Parisiens?
Non, moi, mon pronostic, entre guillemets, est un peu partagé entre les deux. Moi, je pense que si on ne prend pas tout au pied de la lettre, je comprends ce que Ibrahima veut dire. Ouais. Et quand il dit quand le PSG, si le PSG veut être champion, ils vont être champions. Je le comprends totalement. Et je pense que oui, si le PSG veut être champion, ils vont être champions. Mais Monaco a quand même leur pièce à jouer. Je pense que cette année, ils ont quand même quelque chose à jouer. Après, maintenant, il ne faut pas oublier, hein. On n'est même pas au bout des matchs allés. On n'est qu'à la 8e journée. Je pense que voilà, on devra voir aussi les confrontations Monaco contre le PSG et Monaco contre les autres équipes du top 3. Mm-hmm. Parce que Brest aussi, ils font partie un peu, ils sont dans les alentours. Mais faut faire attention en tout cas avec toutes les équipes. Moi, je pense que Monaco, en tout cas, ils ont très bien recruté avec Balogun, comme il l'a dit Ibrahima. Franchement, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Il s'est rattrapé d'ailleurs depuis. Et il marque contre son ancien club ce week-end. Moi, je les vois jouer, ça joue au football. Le coach, c'est un bon coach. Moi, je pense que ça.
En plus,
ça
je pense qu'on est tranquille sur le rocher. On peut travailler tranquillement. Stéphane, des
oui, moi, je,
trop
je,
des fois.
Je synthétise un peu ce qui a été dit. J'ai compris ce qu'a dit Brahima. Dans le sens que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le Monaco. Ça ne me semble pas être le Monaco de 2017 qui survolait le championnat. Ça met un coup comme Lille. Je maintiens aujourd'hui que Lille, comme l'avait dit Mbappé, un peu genre c'est de notre faute, machin. Effectivement, si le PSG fait la même saison et perd 8 matchs dans la saison, le Monaco sera à l'affût pour y être. Donc je pense qu'ils peuvent être champions. Ils peuvent être champions. Maintenant, si tu as effectivement un Paris Saint-Germain correct, ça va être très dur, mais effectivement, jusqu'au bout, je pense qu'ils seront là jusqu'au bout. Et il ne faut pas oublier, effectivement, comme le dit Elhadj, d'abord, on est en début de saison. Bon, les deux effectifs ont eu beaucoup, beaucoup de nouveaux, beaucoup de remaniements et tout ça, peut-être quand même un peu plus à Paris, mais on est surtout à un moment où le Paris Saint-Germain joue la Coupe d'Europe. Ça, ça peut être un plus pour Monaco, qui joue aucune compétition européenne, mais d'ici décembre, et si on y est encore, comme dit Abou, ou si on n'y est pas, on ne va pas avoir 10 matchs à jouer entre janvier et juin de Ligue des Champions, donc ça va être un peu différent. Maintenant, c'est vrai que sur le papier, je pense que c'est la seule équipe qui est en mesure d'éventuellement obtenir quelque chose si le Paris Saint-Germain ne va pas le chercher.
On reste dans la Ligue 1, on était complètement en tête. On va aller dans les profondeurs de la Ligue 1 pour retrouver Lorient, FC Lorient. Aujourd'hui, rapidement, mon cher Abou, est-ce que tu peux nous dresser un topo sur la position
Lorient qui est 16e de Ligue 1 avec une seule victoire depuis le début de la saison. Lorient qui reste sur 5 matchs sans victoire, 18 buts encaissés, 13 marqués seulement. Les hommes de Régis Le Bris qui a beaucoup recruté cet été, lui qui était courtisé par Nice, qui devait partir mais qui n'est pas parti, il y a eu un bras de fer. Les Lorientais ont
une saison compliquée.
C'est ça. Donc pour Lorient, c'est très compliqué, sachant que l'année dernière, c'est une équipe qui finit 10e de Ligue 1, une équipe qui a montré un très beau jeu. Et c'est pour ça d'ailleurs que Régis Le Bris devrait partir. Donc c'est très très compliqué pour le Lorientais. Et les recrutements qu'ils ont fait, moi je suis pas sûr que ce soit les plus judicieux. Autant sur les noms, ça tape fort. Benjamin Mendy, Tchemoué Bakayoko, Isaac Touré, derrière Alfred Gomis qui est en échec à Rennes qu'on reprend. Autant sur le terrain, je ne suis pas sûr que c'est des joueurs qui vont t'apporter un plus, et c'est des joueurs en plus qui n'ont pas l'habitude de jouer le maintien. Ça veut dire que c'est des joueurs, si à la 19e, à la 17e journée, vu que maintenant on est à la 34e, si à la 17e journée on se retrouve toujours à naviguer entre la 16e et la 18e place, je ne suis pas sûr que c'est ces joueurs-là qui te fassent franchir un palier, parce que autant je me moquais de ce que disaient mes compères, autant je pense que le mental a un réel impact sur le maintien dans ces eaux-là. Et c'est des joueurs qui n'ont pas cette habitude-là.
Mais pour autant, ils étaient menés ce week-end face à Lyon. Ouais, mais ils ont quand même remonté.
Ouais,
ils ont réagi. De 3 à 1, ils sont quand même allés jusqu'à faire 3-3. Mon cher,
c'est une bonne chose.
Peut-être de la part de Lyon.
Le sûrement même. Tranché, hein,
voilà. Non, on a assez fait sur Lyon. On va revenir.
Mais ça aurait été une autre équipe.
Oui, Philippe, rapidement.
Ouais, ça aurait été une autre équipe, peut-être.
Ils ont quand même du mental. 3-1, ils finissent à 3-3.
Ouais, ils ont des pépites aussi.
À l'extérieur, en plus.
Oui, c'est bien. Alors, c'est peut-être Lyon qui a failli aussi. J'ai pas vu le match, mais c'est peut-être Lyon qui a aussi failli dans l'application et dans la détermination. Mais bon.
Le problème de Lorient, c'est qu'il y a 4 descentes, quoi.
Ouais.
Il y a 4 descentes.
Bah oui.
Donc. Oui,
ça. Non, il y en a deux.
Trois,
non, c'est en Ligue 2.
Ouais, non, mais qu'on est 18 surtout. Ouais, c'est ça que je voulais dire.
Ça.
Quoi,
c'est ça le souci.
C'est
en Ligue 2 qu'il y en a 4.
16e,
t'es barragiste.
Donc, c'est le problème. Maintenant, moi, je dis. Donc, encore une fois, on ne va pas dire effectivement Clermont, Lorient, Brest, même. Brest a donné quand même certaines.
Ils ont bien commencé.
Mais il y a plein de clubs comme ça. Strasbourg, qui a bien commencé, mais qui s'effondre un peu.
Deux défaites d'affilée.
Ils ont intérêt de prendre des. Effectivement, il y a des équipes qui vont jouer le maintien, qui prennent des points maintenant. Et puis, il y en a d'autres qui n'en ont pas pris. Mais ça n'empêche pas qu'ils vont tous se retrouver à la fin. Et moi, personnellement, je crois pas mal à cette équipe de Lorient quand même.
Donc, tu penses que Lorient se maintient?
Je pense que Lorient peut
se maintenir. Tu penses la même chose? Lorient se maintient en Ligue 1?
Lorient.
Au vu de ce qu'on a comme.
Lorient, ça serait un miracle, en fait. Ça serait un miracle parce que là...
Non, mais il y a plus bas que Lorient aussi, cela
dit.
Oui, clairement, c'est tout.
Même s'il y a plus bas que Lorient, mais moi, je vois vraiment peut-être Lyon vraiment se maintenir. Et Lorient, ça serait un peu difficile.
C'est quoi, Lyon, tu vois Lyon se maintenir par rapport à l'historique de Lyon ou par rapport à l'effectif,
non,
à la valeur intrinsèque des joueurs qu'on a aujourd'hui, en sachant que les Lyonnais n'ont pas l'habitude de jouer le maintien.
Oui, c'est
Il faut se préparer mentalement.
Oui, bien sûr,
et je n'ai pas l'impression qu'ils ont un coach qui est capable d'apporter le mental nécessaire pour jouer le maintien.
Il y a eu des équipes qui ont vécu des situations similaires à Lyon. Par exemple, le PSG qui arrive à se maintenir grâce à un Amara Diané qui nous soit un match vraiment, je crois pas, un match incroyable. Grâce à lui, le PSG arrive à se maintenir. Sinon, le PSG, c'était vraiment descente en Ligue 2. Donc, je pense que Lyon aussi est possible. Lyon aussi est possible de récidiver. Donc, même s'il y a longtemps, mais ça fait partie de l'histoire du PSG.
Oui,
donc, c'est une partie qu'on ne peut pas effacer. Donc, c'est possible aussi pour un Olympique Lyonnais. Ça dépend s'il faut une deuxième bonne partie de saison. Parce que là, il y a pas mal d'équipes vraiment qui enchaînent les victoires. Mais au mois de février ou de mars, ces équipes vraiment, elles seront débordées physiquement. Et c'est là aussi le championnat commence. Moi, je pense que là, le championnat, on est jusqu'à 4 du championnat. 8e journée, c'est rien. Mais à partir vraiment de la 15e, la 16e, la 17e, la 18e,
en général,
la 20e journée.
Quand les départs sont mauvais comme ça, une fois sur deux, la descente, elle est effective. Hein. Ibrahima, Lorient, de l'espoir.
Oui, j'ai quand même de l'espoir pour Lorient. Il y a quand même un bon effectif avec de bons joueurs, hein, comme vous l'avez cité, comme Abou l'a cité tout à l'heure. Des joueurs comme Thiago Bakayoko, c'est quand même quelqu'un qui a remporté un titre avec Monaco, qui a pas mal d'expérience. L'effectif est bon, le coach est bon. Ils m'ont plutôt surpris. Ils avaient fait un bon match face à Lille, qu'ils avaient remporté 4-1. C'était à Lorient. Maintenant, moi, sincèrement, s'il y a une équipe pour qui je m'inquiète réellement pour le maintien, c'est Lyon. Hein. C'est pas Lorient.
Ouais, Lyon, Metz. Ouais.
Clermont. Si Lorient descend, mais je serais pas surpris.
Clermont non plus, moi, je m'inquiète pas.
Surtout Lyon, hein, sincèrement.
Je m'inquiète moins.
Elhadj, Lorient.
Ouais, moi, je maintiens ce que je dis. Je pense que Lyon ne vont pas descendre. Après.
Non, Lorient.
Ouais, oui. En commençant dans le bas
si
du tableau.
S'ils descendent, c'est que d'autres ne descendent pas.
Exactement. Mais Lorient, moi. Lorient pour moi c'est qui tout double, hein. Ils peuvent s'en sortir. En tout cas c'est pas l'équipe où je me dis vraiment ils sont en danger, quoi. Pour moi c'est encore jouable, hein. Faut pas oublier, ouais. Il y a le Havre qui sont aussi pas très loin. Il y a Metz aussi qui sont des équipes, on sait, voilà, qui... Après tout dépend du calendrier aussi, parce que là faut savoir qui est-ce qu'ils ont affronté Lorient pour se retrouver dans cette position. Ça dépend de tout. Du coup moi je dis il n'y a pas à s'inquiéter spécialement pour Lorient pour l'instant.
Merci les amis, encore beaucoup de sujets dans ce Au bout du foot aujourd'hui. On va dans quelques instants parler de l'équipe de France. Didier Deschamps dévoile sa liste qui sont, selon vous, les absents notables. Le championnat de MLS. Et puis, on va partir en Côte d'Ivoire pour parler de la CAN. Tout cela avec le concours de notre ami Jason Lindor. On marque une pause publicitaire. On revient juste après.
David roule tranquillement en centre-ville. Il reçoit un message et ne résiste pas à l'envie d'y répondre. Comme tous les jours, Julie rentre du collège. Elle traverse la rue et sera tuée sur le coup. Sa mère n'osera plus toucher à sa chambre. Son père se cachera pour pleurer. Sa classe se figera dans le silence. Et son professeur donnera le cours le plus dur de sa vie. Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route ? Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables.
Quand je l'ai quitté, il a commencé à m'envoyer des insultes et des menaces sur mon Facebook. Pour se venger encore plus, il a publié des photos de moi trafiquées. Maintenant, plus personne ne me regarde de la même manière. Je me sens humiliée, salie. Prise au piège. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Je pensais que ça passerait, mais je me sens toujours seule. Sali. Je me supporte même plus. Faut que j'en finisse.
Si Kenza en parlait à quelqu'un, elle pourrait éviter le pire. Stop au silence. Avec Sourire de Reda, association marocaine pour aider les jeunes en souffrance et prévenir le suicide. Exprime-toi sur la fanpage Facebook Sourire de Reda.
Au sommaire ce soir d'Au bout du foot. 30 secondes chrono. Nos experts résument un fait marquant de l'actualité foot en 30 secondes chrono. Coupes européennes. Au bout du foot, analyse les performances des clubs français lors de la semaine européenne. Quels matchs ont déçu ? Quels matchs ont impressionné ? Monaco en tête de la Ligue 1. Les hommes du Rocher peuvent-ils rêver du titre ? A contrario de Monaco, le FC Lorient risque-t-il la descente ? Real Madrid. Jude Bellingham en course pour le titre de Pichichi en Liga. Réalité ou utopie ? Nous y reviendrons. Équipe de France. Didier Deschamps dévoile sa liste.
qui sont les absents notables? La méforme de Mbappé est-elle préoccupante? Au bout du foot se prononce. Championnat de MLS. Lionel Messi nominé parmi les joueurs de la saison en MLS. Justifié ou pas? Au bout du foot ouvre le débat. La chronique, quel choix pour quel résultat? À 3 mois de la CAN, le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, est-il prêt? Quels sont les favoris pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations? Depuis Abidjan, notre correspondant sur place nous dit tout. Commentaires, analyses, décryptage, pronostics, au bout du foot. Saison 1, épisode 4, bienvenue. Au bout du foot, quel choix pour quel résultat?
Quel choix pour quel résultat? On va s'arrêter un instant avec l'ami Magat, journaliste sur la 3 RTI. Salut Magat.
Salut Magat.
Ça va?
Super bien, et vous-même?
Ça va super bien. Il fait quel temps sur Abidjan là? Parce qu'on sait qu'il pleut beaucoup là. On a vu le stade d'Ibempe là.
Exactement, un temps maussade. Il a plu depuis la journée, depuis le matin, aux environs de 5h du matin, heure d'Abidjan, on va dire 7h, heure de France. Et depuis lors, ça n'a cessé de pleuvoir, mais maintenant ça va. Depuis 16h, heure locale, la pluie a cessé. Et puis bon, on a pu vaquer finalement à nos occupations pour ceux qui travaillent de main libre, comme on le dit.
Est-ce que ça augure d'un espoir, sachant que on a vu la pelouse des Bimpé, notamment face lors du match amical Côte d'Ivoire-Mali. On a vu que le stade des Bimpé était impraticable là pour le coup. Est-ce qu'on a des raisons d'espérer?
Effectivement, exactement. Ce match s'est terminé en eau de boudin. Après 45 premières minutes, on a eu droit à 45 minutes de pause pour attendre à ce que le système de drainage prenne possession de l'eau qui était donc sur la pelouse. Ça n'a jamais été le cas. Alors, vous savez, hein, le reste appartient à l'histoire. Je ne vais pas vous dire également ce qui s'est passé finalement. Mais ça fait beaucoup de bruit, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive ici à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, hein, il y a un remaniement ministériel qui est prévu pour très bientôt, pour quelques heures. Alors, ça se murmure que voilà, cette histoire des MP aurait emporté le ministre des Sports. On ne sait pas encore, pour le moment, ce sont des spéculations qui vont bon train. Mais bon, voilà, ça, c'est côté extra-sportif. Mais pour parler du sport en lui-même, oui, bon, c'est pas grave, vous savez, hein, on a pas mal de pelouses. Nous avons 6 pelouses, donc 2 pelouses d'Abidjan, le stade Faubouigny, le plus vieux stade du pays.
Qui a été rénové.
Et puis le stade Ibimpe, comme on l'a dit. Et puis ensemble également, on peut parler du stade de San Pedro, Laurent Pocou, l'homme d'Asmara, qui a marqué pas mal de cannes d'ailleurs. Meilleur buteur, c'est une compétition en 70. Hein. Voilà, dans la cité balnéaire de San Pedro. Et on a aussi le stade Amadou Gonkoulibaly de Korogo, le stade Charles Koulambani de Yamoussoukro, et puis le stade de la Paix de Boaké. Des stades, voilà. Les deux derniers cités sont les stades où il y a eu des tests très concluant, la SEC joue régulièrement ses matchs de Coupe africaine et également pour l'AFAD également à Yamoussoukro. Donc oui, je pense que le pays est en train de faire sa mue petit à petit pour accueillir la grande messe de football africain et surtout cette 34e édition. Donc oui, pour le moment, le pays est en mouvement pour recevoir les meilleures nations, c'est-à-dire les 23 nations qualifiées pour cette CAN et dans la Côte d'Ivoire pour la 24e nation. Donc 24 nations, il faut le rappeler.
Nous sommes à 96 jours de cette CAN, 34e édition du nom d'ailleurs. Est-ce qu'on peut dire de façon concrète que le pays hôte est prêt?
Oui, on peut dire à 90%. On nous avait vanté les mérites de nos stades. Je me rappelle à l'époque, au mois de février 2023, le secrétaire général de la CAF était venu à Abidjan et lors d'une conférence de presse dans un hôtel somptueux de la place, avait dit, et je cite, « Les installations que j'ai vues là sont dignes de la Coupe du Monde. » Eh bien voilà, la pluie est venue attester effectivement si c'était donc digne de la Coupe du Monde. On a dû le voir que oui, certaines installations ne sont pas dignes de la Coupe du Monde, dont le stade Alassane Ouattara de Bimpe, et d'ailleurs malheureusement le stade qui porte le nom du président de la République. Je pense que les choses sont en train de se mettre en ordre crescendo. Mais hormis ce petit couac du stade de Bimpe, je pense que toutes les infrastructures à la CAN sont presque prêts. presque prête parce que j'ai été à San Pedro pour le match de la Côte d'Ivoire face aux Lesotho à l'occasion de la 6e journée voilà, des éliminatoires de la CAN. J'ai vu un peu San Pedro en mouvement. Il reste la petite voirie un peu de bitume, c'est tout. Sinon, pour le reste, les checkpoints, voilà, tout est fin prêt. Mm-hmm. Et puis également, sans oublier les infrastructures hélières et même routières, aériennes, parce que pour quitter Abidjan, pour aller à San Pedro, il faut 4 heures de route. Par la route et en avion, vous avez 30 minutes par là. Mm-hmm. Voilà, les éléphants sont arrivés à Abidjan le mercredi, ils sont repris le dimanche par avion, également par Abidjan. Mm-hmm. Donc là-dessus, le pays est développé au niveau aéronautique. Donc ça va. Ouais, Abidjan-Korogo, c'est par avion, Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. Quoi. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Les stades se sont prêts, hormis la pelouse du stade Bimpi. Et puis bon, je pense que tout est fin prêt. Là, on est en train de se organiser pour le tirage au sort.
Justement, j'allais en venir rapidement. Magat, qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport au tirage au sort?
Pardon?
Justement, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce tirage au sort? Quand est-ce qu'il aura lieu? Et qui sont les équipes
le
favorites pour toi?
Le tirage au sort, exactement, a lieu le jeudi 12 octobre à partir de 17h, heure d'Abidjan. Donc, on va dire 19h, heure de France.
Ouais.
Il prendra fin à 20h30, heure d'Abidjan, donc 22h30, heure de Paris. Les grosses nations sont entendues, les grosses stars sont entendues également. Vous savez, les Ivoiriens sont déjà là pour les matchs amicaux face au Maroc et face à l'Afrique du Sud. On aura quelques joueurs également qui seront donc de la partie, qui vont procéder au tirage au sort. Mais attention, pas des joueurs en activité, parce que cela peut être sujet à polémique de tricage de tirage au sort. Donc, ce n'est pas des joueurs en activité. Les anciennes gloires du football africain, comme Aladji Diouf le Sénégalais, comme Djadji Augustine Okocha, et également qui a gagné la CAN 94, il était tout jeune d'ailleurs. Pas mal de légendes africaines, Wael Goma, l'Égyptien, Mohamed Abou Treika, ces gens de noms-là sont entendus là. Et il se pourrait que Sadio Mané puisse faire le déplacement spécialement pour sa présence. Voilà. Donc, ce n'est pas encore vérifié, mais j'ai eu son agent en question en ligne hier. On en a parlé un peu plus ou moins, mais bon, voilà, ce n'est pas encore vérifié. Mais je pense qu'on aura le temps de vérifier cela. Donc oui, tout à fait prêt, et Abidjan accueillera donc ce tirage au sort-là. Et dans les nations entendues, hein, vous le savez, hein, c'est l'Égypte toujours qui a joué 8 finales de CAN, dont 7 remportées. La seule finale que l'Égypte a perdue, c'était donc en 2017 face au Cameroun, au Gabon d'ailleurs, match perdu 2-1. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Ils ont perdu 2 finales. Et puis surtout la dernière finale perdue face au Sénégal également de Sadio Mané en 9 finales, 2 victoires. C'est bien déjà pour l'Égypte. Le Sénégal d'ailleurs qui a joué maintenant également sa 3e finale, la première en 2002 avec les Aladji Diouf perdu face au Cameroun, la deuxième en 2019 avec face à l'Algérie de Jean Marais, et puis maintenant la 3e a été la bonne face aux Égyptiens l'année dernière au Cameroun, pour ne pas dire il y a 2 ans. Voilà, également on peut parler du Maroc qui a gagné sa dernière CAN depuis 1976, ça remonte à Matouzalem, mon cher Malik. Donc le Maroc est entendu, surtout c'est la première nation africaine et 13e au classement mondial, qui a fait sensation au niveau de la Coupe du Monde dernièrement au Qatar. Donc voici un peu les têtes de gondole qui pourraient inquiéter un peu la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire étant donc pays organisateur, donc je pense que cette nation-là ne sort pas dans le groupe de la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire pourrait évidemment les rencontrer à partir des phases à élimination directe. Mais il va falloir aussi compter rapidement, Malik, sur aussi également des troupes faites. Comme le Mali, qui a une très bonne génération, amenée par des garçons comme Néné d'Orgelès, surtout le playmaker, le maître à jouer de Tottenham. Aujourd'hui, vous savez, Bissouma. On parle de Yves Bissouma, bien sûr. Mm-hmm. Voilà, donc voici une équipe comme ça, qui joue bien au football, qui est arrivée plusieurs fois sur le podium de la CAN, mais qui n'arrive pas à franchir, à briser le plafond de verre. Donc cette fois-ci, peut-être que la Côte peut leur prendre des chances. Et surtout que pourquoi la CAN, c'est un Côte d'Ivoire, c'est donc un pays voisin.
Pourquoi pas, pourquoi pas. Serait-ce
toujours là, le Nigeria, voilà.
Pourquoi pas, serait-ce l'année du Mali, sait-on jamais. En tout cas, merci Magata depuis Abidjan. Et puis, on t'aura régulièrement comme ça dans Au bout du foot jusqu'au mois de janvier, date à laquelle justement cette CAN connaîtra son départ. Merci à toi et puis bonne soirée sur Abidjan et puis à très vite.
Merci Malik et merci à tous les amis en plateau.
Merci. On enchaîne tout de suite, chers amis, avec le deuxième sujet. Dans quel choix pour quel résultat? Lionel Messi nominé pour le titre de joueur de la saison, justifié ou pas? Aboubakar.
4 matchs disputés, 4 loupés sur blessure pour 1 but et 2 passes décisives. Hein, on ne peut pas dire que le bilan de Messi en MLS soit en adéquation avec un dossier de candidature pour devenir MVP. Pourtant, il a été nommé parmi une liste de 30 joueurs, dont sera issu le lauréat à l'issue d'un vote auquel participent les joueurs, les coachs et directeurs sportifs, ainsi qu'un panel de journalistes. Parmi ces 30 joueurs, on retrouve quelques têtes connues du football européen, comme Sergio Busquets, Christian Benteke, Denis Bouanga, Roman Bürki, Hector Herrera ou encore Ricky Puig. Messi, 4 matchs déjà nommés.
Messi nominé marketing ou réelle marketing, valeur sur les prestations
c'est
du joueur.
C'est du marketing, je pense qu'on n'a même pas besoin, je pense, de s'attarder là-dessus. Hein. Je pense que voilà, c'est du marketing. On a tous vu sur 28 matchs, il n'est ni meilleur buteur, ni meilleur passeur, ni meilleur joueur de la compétition. En 4 matchs, de toute façon, tu ne peux pas le montrer. Ça, c'est pas possible. Voilà. Du coup, je pense que c'est un coup de marketing et ça en vaut même pas la peine de s'éterniser là-dessus.
Stéphane Desenclos, Messi, rapidement.
Bah oui, je suis tout à fait d'accord. Quoi. Là, on rentre dans un débat qui est déjà assez évoqué pour le Ballon d'Or, dans le sens, est-ce qu'on doit nommer celui qui est le meilleur ou celui qui a fait des meilleures choses je ne parle pas pour lui, pour Messi, hein, pour le Ballon d'Or, mais on en parle souvent.
L'ensemble de son œuvre.
Non, mais même pour les autres joueurs, quoi. Est-ce qu'il a fait des choses intéressantes dans le championnat dans lequel il joue et voilà, donc là, si, en plus, là, c'est une référence strictement liée au championnat de MLS. Quoi. Donc, ouais. Ça me paraît un peu. Je n'ai pas bien compris vos chiffres, par contre, parce que j'avoue, là par contre, je ne regarde pas les matchs de MLS.
Il a joué 4 matchs, les autres matchs n'étaient pas en MLS.
C'était la coupe à côté. Il a joué beaucoup de matchs. Tu l'as vu jouer beaucoup de matchs.
J'ai pas vu.
Tu as entendu beaucoup de matchs, mais ce n'était pas la MLS.
J'ai apprécié la franchise de Stéphane.
C'est typiquement du marketing.
Oui, Philippe Lobov.
Pour sa participation au championnat américain. Ah bah oui, championnat américain, non.
C'est le meilleur joueur.
C'est pareil, c'est que du marketing. Parce que c'est Messi, donc ça peut se vendre et tout. C'est une effigie, c'est une marque. Messi, c'est une renommée mondiale, c'est une star. Donc
est-ce que Ibrahima pense le contraire?
Non, je pense pareil. Enfin, il n'y a qu'à voir de toute façon ce qui s'est passé lors de son arrivée à Miami. Le prix des places avait grimpé
tout a flambé
de façon
avec Messi,
assez folle. Et personnellement, j'ai jamais pris ce championnat là au sérieux, la MLS. Donc, sincèrement, pour moi, c'est du divertissement.
J'ai l'air traité.
Ils sont dans les derniers. Ils vont même pas jouer les playoffs. Ils sont dans les derniers.
Ça tire à balles réelles ici. Moi, cher Abou.
Qu'est-ce que attendre d'un championnat déjà qui se sont mis avant pour payer le salaire d'un seul joueur? J'ai jamais vu ça ailleurs là-bas. Donc, à partir de là, qui lui donne le meilleur, le titre de meilleur joueur?
Messi, c'est clos. Alors, on a encore deux sujets rapidement, les amis. Jude Bellingham en course pour le titre de Pichichi. Et puis on a l'équipe de Deschamps, hein, les appelés, qui sont les absents notables. On va commencer tiens avec Bellingham, rapidement. Est-ce que vous pensez que Bellingham peut aller au bout?
Tout est possible dans le foot.
De là être buteur de la Ligue 1, mais non.
Faut pas aller trop vite.
Non, pas ensemble, les amis. Ouais. Stéphane?
Tout est possible dans le foot, mais non, au niveau des stats. Maintenant qu'il soit le joueur de la saison en Liga, c'est très possible. Tellement c'est un joueur qui est fort et qui est mis dans des bonnes conditions pour travailler au Real Madrid. En buteur, non, je pense pas.
Ouais. Philippe? Pareil. Même d'accord avec Stéphane. Et puis, il faut se méfier dans le foot. Dès qu'un joueur brille, on commence à dire, attention, il va être bon. On se rappelle de beaucoup de cas qui ont explosé en cours de rôle, de vol. Hein. On se rappelle de Robinho. Je crois que c'était un jeune talentueux brésilien. Ouais. Et puis Robinho, aujourd'hui, plus personne n'en parle. Donc,
Il y a eu le cas d'Alexandre Pato aussi.
Qui flirte même
ouais,
là,
donc,
prison,
attention, mais, ouais, méfiance.
Oui, Chakunza?
Ouais, Bellingham, vraiment, moi, je ne vois pas être Pichichi, mais je le vois vraiment être. Il peut être vraiment le meilleur joueur de la saison et tout. Il peut être la révélation et tout. Il peut être le meilleur joueur, mais Pichichi, moi, je ne vois pas.
Il a 10 buts, hein, c'est
9 ans. 8 en championnat.
En championnat, 8.
Mais avec un Lewandowski vraiment au milieu de sa forme, ça serait vraiment difficile.
10 buts en 10 matchs.
Parce que lui, il enchaîne but sur but. Et après, il y a pas mal de joueurs aussi, vraiment, qui peuvent. Un Vinicius aussi, qui marque beaucoup du côté du Real.
Déjà, il a pris un peu de retard, Vinicius.
Oui, certes, il a pris un peu avec la blessure et tout ça. Et c'est plus le même collectif. Parce que par le passé, avec un Benzema et tout. Oui. Et là, c'est différent. Avec un Bellingham ou tout ça. Donc, c'est différent. Certes, Vinicius, il a pris un peu de retard. Mmh. Mais la saison, elle va se jouer au niveau de la deuxième partie de saison, c'est-à-dire les phases retour. Moi, c'est à partir de là que vraiment je vois les choses bien se dessiner. Parce que là, c'est les deux buts. Il y a des équipes encore qui n'ont pas encore les mêmes automatismes et tout ça. Il y a eu pas mal de changements et tout. Donc, les équipes vraiment. Et avec la préparation qu'ils font le plus souvent, la préparation, elle est adaptée pour la deuxième partie de saison. C'est-à-dire la partie où vraiment les joueurs seront dans la difficulté. C'est là vraiment, vraiment le véritable niveau de Bellingham.
C'est Pinto, c'est bien ça, non, Pinto, le préparateur physique, entre autres, du
qui
Real.
Qui fasse une carrière à la Benzema.
Qui prépare les joueurs du Real d'une façon extraordinaire, de sorte à ce que plus on se rapproche des échéances, on va dire décisives, et cette équipe-là continue de performer. Ibrahima, rapidement, Bellingham.
Oui, excellent début de saison de sa part. Et il n'y a pas que les buts. Hein. Même sur le terrain, on voit qu'il est très à l'aise. Toujours serein. Enfin, on a l'impression que ça fait déjà des années qu'il joue au Real Madrid. C'est assez impressionnant. Maintenant, après, c'est sûr que meilleur buteur. Après, on ne sait pas. Hein. Le Real Madrid n'a pas réellement d'attaquant. Rossellou, je ne suis pas forcément convaincu. Peut-être qu'il prendra la place de Benzema. Je ne sais pas. Enfin, pas sur le terrain, mais en termes de buts et de statistiques.
Rossellou, c'est en attendant Mbappé, hein, je pense. Hein.
Oui, je pense que c'est ça.
Cher Abou.
Moi, je pense qu'il va finir meilleur buteur de Liga.
Attends, c'est juste pour faire le débat là ou
non, sur... mais à chaque fois pour l'instant pas farfelu hein. Mais je pense qu'il va finir finir meilleur je peux aller, on va très rapidement, je pense qu'il peut finir meilleur, pourquoi il va même pas, il va finir meilleur buteur de Liga. En Liga, les meilleurs buteurs en fait, ils finissent toujours, si on remarque bien, à 20-23 buts. Depuis qu'ils sont partis, les trois monstres, Messi, Ronaldo et Suarez. Derrière, il y avait Benzema qui a fait une saison à 27 buts, mais la saison d'après, il est à 23. L'année dernière, Lewandowski, pareil, il est à 23 buts. Et ils finissent toujours à 20-23 buts. Cette année, Lewandowski prend un peu de retard. Vinicius, il prend un peu de retard. Bellingham, il est déjà à 8 buts et je ne le vois pas s'arrêter là. Donc, je pense qu'il va franchir la barre des 20 buts, mais j'en suis persuadé. Je le sens. J'ai un petit truc qui me fait dire.
Tu penses pareil aussi que.
Oui, je partage beaucoup l'avis d'Abou. Moi, je pense que Bellingham va finir meilleur buteur parce qu'on a vu hein, Lewandowski, son cas.
C'est même pas sur le podium. Pour vous, c'est le meilleur buteur.
Pichichi, pour moi, il n'y a même pas. En fait, même Pichichi, meilleur joueur de la Liga et même Ballon d'Or. Hein.
Moi, je dirais meilleur.
J'y vais jusqu'au bout.
Les gars, ce sera l'objet d'un autre sujet. On va partir avec Didier Deschamps.
Bellingham, c'est juste pour moi.
On va partir rapidement avec Didier Deschamps.
C'est un régal. Il a 8 buts. Lewandowski, il est blessé. Il n'y a pas vraiment attaquant. À part Morata. À part Morata, personne ne pourra lui prendre la vedette.
Merci, Eladia. Didier Deschamps a dévoilé sa liste la semaine dernière. Qui sont les absents notables selon vous?
Paul Pogba.
Ouais. Bon, c'est bon. Abou, et toi?
Absent notable? Ouais. Non, il n'y a pas d'absent notable pour moi.
Ibrahima?
Non, c'est plutôt cohérent, il n'y a pas d'absent notable.
Et toi, Chekenza?
Ouais, ça va, c'est une équipe vraiment, et je pense qu'il a pris les meilleurs joueurs là.
Philippe?
Bah, comme d'habitude, ouais, il n'y a pas d'absent
notable. Moi, je pense qu'il prend les meilleurs joueurs. Qui manque, mais ce n'est pas notable, c'est Moussa Diaby, mais il a pas, je ne vois pas qui enlever, je ne vois pas qui j'enlèverai. Au début, il y a 8-10 jours, j'aurais préféré peut-être Diaby à Coman. Maintenant, Coman, il est bien revenu. Il a eu du mal.
Moi, Thuram. Moi, Thuram, je le mets ramasseur de ballon direct.
Coman, il a eu un peu de mal à rentrer.
Marcus. Est-ce qu'on parle du même joueur?
Non, mais ça tire à balle. Il est brouillon. Il ne sait même pas jouer au foot. Il accélère seulement. Il est brouillon. Il accélère seulement.
Les amis.
C'est un athlète.
On laisse Stéphane finir, s'il vous plaît.
Coman a eu un peu de mal à rentrer dans la saison. Donc, au début, je me disais.
Il a fait un bon match.
Oui, et puis il est revenu même avant. Là, il a marqué deux buts ce week-end, mais sinon même avant il est revenu bien, donc finalement je vois pas qui moi je suis pas
et toujours en lien avec cet effectif de Deschamps. On voit bien Kylian Mbappé, des performances en demi-teinte, autant dire les choses comme elles sont. Est-ce que ça vous inquiète pour la sélection, entre autres?
Non, moi ça m'inquiète pas, parce que quand elle arrive en équipe de France, il change de costume tout de suite et je pense pas que ça va pas m'inquiéter.
Moi je suis pas inquiet pour ça. C'est en équipe de France, je suis inquiet pour le joueur lui-même dans la.
Pour l'homme.
En ce moment, je sais pas.
Il aura une vie extrasportive.
Bah, j'ai l'impression qu'il se perd un peu notre kiki national et j'espère que c'est pas le cas, parce que moi c'est un joueur que j'apprécie énormément et j'espère qu'il va vite se remettre la tête à l'endroit. Mais en ce moment, j'ai l'impression qu'il est un peu du père.
Ibrahim,
je partage le même avis qu'Abou concernant Mbappé. C'est plutôt à son niveau. À lui que je m'inquiète, sinon pour l'équipe de France, même si le dernier match c'était une défaite face à l'Allemagne, je suis pas plus inquiet que ça et j'attends de voir ce que ça va donner contre les Pays-Bas, mais je pense qu'ils remporteront le match.
Et Chakadza?
Oui, je pense que Mbappé, au niveau de l'état d'esprit, c'est pas ça en ce moment.
Ouais,
c'est pas ça. Il va falloir vraiment qu'il puisse se remettre dans le bon chemin, parce que vraiment c'est une star.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
La moitié des Français, vraiment, ils espèrent de lui
corporel,
le nouveau Ballon d'Or, mais après on sait pas trop ce qui s'est passé.
Dans la tête du Mbappé, j'y suis pas, mais en tout cas, je pense qu'il a fait dimanche, donc hier, il a fait son meilleur match depuis le début de la saison. Donc je ne suis pas du
moi,
tout.
Je crois qu'on ne regarde pas les mêmes matchs.
Ouais. Ouais. Pas de la même manière. Pas de la même manière.
Philippe, je te laisse le saut. Attends, ouais.
On parle de celui qui a.
Je rajoute quand même que, oui. Non, juste terminé, que ce match, il doit à 99,9% le terminer avec deux passes décisives et deux buts.
Ouais, surtout dans les tribunes.
Ouais, non.
Oui, cher Philippe.
Il ne sera buts, pas bien et il va nous faire un super euro. Vous allez voir.
Ouais. Enfin, merci à
vous. On lui souhaite.
J'adore les prédictions de notre ami Philippe. Philippe, mon Paris Sport, c'est tous les lundis à 19h, juste derrière, au bout du foot qui se termine aujourd'hui. Merci Stéphane Desenclos, quotidien du sport.
Philippe, vous êtes là la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Vous n'êtes pas Lens?
Non, on sera à Lens pour le match amical.
Oui, la semaine prochaine.
Sénégal, Cameroun.
C'est la semaine prochaine.
Oui, c'est la semaine prochaine. Lundi,
hein.
Merci Sek Chakunza, merci Ibrahima, merci Eladj, merci Abou. Jason Lindor réalisé au bout du foot de ce soir. On se retrouve très 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 vite. Voilà. Salut, ciao.
Au bout du foot, 20h30, 22h, Malik Eudi.
Mon Paris FM.